elle m'invitait à dîner, qu'elle me faisait du riz au lait avec une sauce aphrodisiaque que tu ne savourais jamais. T'es trop coincé, t'es trop maniaque. Tu te couchais, tu t'endormais. Moi je me levais sans bruit, rejoindre ta mère dans son lit. Ça fait des mois et des années que je te trompe avec ta mère. Sa fleur d'amour n'est pas fanée, mais la tienne est bien trop amère. Ça fait des mois et des années que je te trompe avec ta mère. Sa fleur d'amour n'est pas fanée, mais la tienne est bien trop amère.
Bonjour et bienvenue, vous êtes en train de nous écouter en fait sur l'enregistrement en studio. Donc exceptionnellement on est en stéréo, on vous explique pourquoi. Thomas, tu vas pouvoir y aller.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le dimanche. Le dimanche ?
Ouais, il y a date plus 1, j'ai oublié de revenir en arrière.
Nous sommes le samedi donc, 27 janvier 2013, nos programmes
26.
Pour cette...
Date plus 1.
Ah oui, non, non, on est le 27 aujourd'hui. Attends, il y a le 27, attends. Mais oui, on est... Bah non, on est le 26, tiens. Bon, d'accord. Le samedi 26 janvier 2013. Ah mince, attends, ma banderole, elle est fausse alors.
C'est pas rewind.
Nos programmes pour cet après-midi à 13h30 du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Jeanne Oded et à 17h FMR celle d'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le biopic sur le jazz manouche que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
D'un autre côté, les jeunes élèves féminines, sous-entendu les oies blanches, hein, quand elles ont découvert ton sujet de prédilection, elles rougissent en manipulant leur chapelet, elles osent pas, elles se mettent en maladie, elles font trois avé pater en sortant.
Faut savoir que déjà que dans ce type d'école, il y a la grosse majorité, c'est des mecs. Hein.
Non.
Non. Ah bon, bon d'accord.
Tu es dans la mauvaise école, toi.
C'est vraiment dans la mauvaise école, hein. Vraiment pas de bol, hein. Non, non, je pense que on est à peu près à moite-moite, là, chez moi.
Radio FMR présente... Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec... Du sport... Ultimatum d'Astrid et la participation exceptionnelle de
un invité en retard. Bonjour et bienvenue, bonjour Ultimatum.
Salut d'Astrid du
bonjour
sport.
Bonjour du sport.
Bonjour.
Bonjour Eddie.
Eddie, si tu nous écoutes dans ta voiture, sur ton autoradio, tu rappliques. Alors, on va se faire une spécialité de nos invités qui sont en retard quand même.
Voilà, c'est pas la première fois. Vous avez vu donc la semaine dernière, il y a 15 jours, la semaine dernière, on n'a pas pu faire l'émission. Il y a 15 jours, Serge Biro était en retard et on a pu se débrouiller.
Alors oui, alors t'es gentil par contre sur l'intro de l'émission, puisque je te rappelle que nous sommes à Angoulême la semaine prochaine avec des collégiens. Et donc Serge qui...
Oh mince. Je suis désolé, oui.
Oui, quand même.
Bon, alors, il faut quand même expliquer que les écoles dont on parlait, ce sont des écoles d'art, donc c'est post-bac.
Ouais,
donc
enfin,
ils sont majeurs.
Enfin, t'as vu les dessins de Serge, quoi. C'est...
Non, mais ils sont pas... Déjà, il faut qu'ils trouvent la bonne orthographe sur Google pour retrouver.
Bon, ça va.
Voilà. L'honneur est sauf. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, donc, c'est une spéciale sur la biographie totalement inattendue réalisée par notre réalisateur favori sur le jazz manouche. Voilà, je me suis trompé de track, il est revenu en arrière.
D'accord.
Jazz manouche.
Voilà, donc sur Django Reinhardt, actuellement au cinéma. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ces sourires là ?
C'est pas le même Django, Xavier.
Ouais, mais non, mais moi j'ai voulu voir Django Unchained hier, mais c'était plein les 4 séances, alors finalement j'ai pas pu aller voir et. Et comment te dire ? Bah, par contre, je peux te dire que Ben Laden dans Zero Dark Thirty, il prend franchement cher.
Voilà. Ouais, mais bon, si on commence l'émission en spoilant les films, merde.
Et je te rappelle qu'il y a des collégiens qui nous écoutent.
Ah oui, c'est vrai, il faut pas dire.
Voilà.
Allez, premier gros mot au bout de 5 minutes, c'est super.
C'est pas mal. 6 minutes 7. Ceci dit, donc, bonjour et bienvenue. Exceptionnellement, je tiens à signaler pour ceux qui nous écoutent en dehors de la FM. Ils peuvent pas nous écouter en stream actuellement puisque le prestateur qui diffuse la radio, alias Geese.tv, et actuellement des soucis de maintenance sur ses serveurs. Donc exceptionnellement sur le podcast, pour s'excuser, ce programme est en stéréo.
Ouais.
Voilà, l'ancienne manière, années 70. Là aussi, c'était un petit clin d'œil. De quoi peut-on parler rapidement?
Alors d'abord, on va quand même dire que nous organisons une spéciale aujourd'hui autour de Quentin Tarantino à l'occasion de la sortie de Django Unchained. Voilà.
Silence sur le plateau quand on arrive.
Voilà, donc nous allons proposer une spéciale autour du réalisateur de Pulp Fiction et de Django Unchained, mais en attendant, nous avons nos petites rubriques. Alors attends, je te fais la bise après parce que je suis en train de parler.
Non, non, tu vas lui faire la bise pendant que je dis très rapidement que donc le J.J. Lance Flair Abrams signera donc officiellement le Star Wars numéro 7. Et nous avons, j'ai officiellement fait le décompte au cinéma à vote du nombre de Lance Flair dans la bande-annonce du Star Trek qui va sortir réalisé par le même, à savoir 21.
21 Lance Flair, ouais. Dans une bande-annonce.
1, 2, 3, et à la fin c'est 20, 21, recombattu. Là autour t'as les mecs qui applaudissent, tu vois, la copine qui est morte de honte et explosée de rire.
Ouais, en tout cas,
obligé.
En tout cas, donc voilà, tout ça pour dire que au cas où des gens auraient passé les deux derniers jours dans une grotte, c'est officiel. J.J. Abrams, le réalisateur des Star Trek, réalisera Star Wars épisode 7.
Voilà, et on va expliquer ce que c'est qu'un lens flare. C'est quand vous avez un objectif qui est crade et que vous allez vers la lumière, ben vous avez de la lumière qui brille de partout. C'est ça, un lens flare, ça veut dire tout simplement que le budget nettoyage de l'objectif des caméras. Ben...
Sachant que Dusport fait semblant de ne pas écouter puisqu'il a juré de ne pas parler des traîtres, en direct à ce micro, puisque faut savoir que Madame Dusport est une tréquise invétérée. Donc évidemment, voilà,
ça rappelle
voilà. Un peu les transferts, okay. Les transferts intranationaux en foot, tu sais, quand c'est un joueur qui trahit un club pour aller chez l'ennemi, tu vois, c'est pareil.
Someone says that du sport family, les trois petits sont appelés alternativement les gnomes et les Klingons.
Les Klingons, voilà.
Enfin voilà. Bon, et moi, c'est à ce qui paraît, c'est le Borg.
Bien qu'il y en a un qu'on se demande si c'est pas un Cardassien plutôt. Comme une férocité.
Quelle horreur. Je tiens à féliciter, puisque la semaine prochaine, c'est le Festival d'Angoulême. Dans le milieu professionnel de l'édition, à ce moment-là, c'est là que le personnel support des éditeurs annonce des changements. L'attachée de presse, justement, l'attachée de presse de Glénat s'en va après plus d'une dizaine d'années quand même de bons et loyaux services, et le directeur artistique du festival, qui est en place depuis maintenant bien une dizaine d'années, Benoît Mouchard, quitte le festival.
Tu peux me dire en quoi ça intéresse nos auditeurs qu'une attachée de presse
Mais c'est un exemple.
Ah d'accord.
Donc Benoît Mouchard quitte la direction artistique du festival qu'il a quand même mené avec un certain travail.
Et ils s'en vont ensemble.
Et je ne sais pas. En tout cas, il part chez Casterman. Il prend la direction de toute la partie BD de Casterman, milieu qu'il connaît bien évidemment, mais aussi Casterman édite Tintin. Or, il connaît bien quand même l'histoire de Tintin, puisqu'il a fait une biographie de Van Melkebuck, l'ami qui a été blacklisté d'Hergé. C'est celui qui avait fait les scénarios, notamment L'île Noire et tout ça, et qui, pour fait de collaboration, puisqu'il avait écrit dans Le Soir Volé, s'était retrouvé frappé en fait d'incivilité, donc il n'avait plus le droit de travailler.
D'accord, super.
Très très bon bouquin qu'avait fait Benoît Mouchard, donc je pense que de ce côté-là, en plus c'est quelqu'un qui est plutôt ouvert sur les mangas, donc ça devrait être plutôt intéressant.
Zou,
le mag.
C'est Zou ou Zo? On dit Zo qu'on dit Zou, hein.
Non, c'est Zo, le mag numéro
Zou,
40.
Z-O-U, pour ceux qui sont des papas ici, Zou, c'est le petit zèbre, hein, dans le film Ben. Oui, ou du sport aussi. Un Zou. Non, bref.
Zo, non, je dirais Zo, moi.
Non, non, mais ils n'ont pas suivi l'histoire du petit zèbre Zou. C'est pas grave.
Elle est géniale, cette émission. Y a personne qui écoute. T'es d'accord avec moi?
Oui.
De quoi tu parles?
C'est super ce que tu dis.
Ouais, on est fans.
Je suis largué, j'ai pas de gosse. Zo, donc le mag gratuit qui est disponible dans la plupart des supérettes culturelles. Donc vous la trouvez dans les Cultura, je crois certaines Fnac, pas mal de librairies et dans certaines gares, ce qui paraît. Zo, le mag numéro 45 de janvier 2013, sur lequel on retrouve Thierry Lemaire, Didier Passamonique, pas mal d'amis d'ailleurs d'Actua BD, est consacré bien évidemment, alors, au Festival d'Angoulême, en couverture, Bastien Vivès, qui a eu l'an dernier le prix de la CBD. Oui. On se souvient de la projection surprise quand même.
Donc là, il doit faire un cadeau pour le suivant.
J'espère que tu y seras jeudi à la remise du prix, à midi, pour me représenter.
Au midi, tu sais bien que la sacro-sainte arrivée à Angoulême est accompagnée d'un repas arrosé au pinot, donc je ne pourrais pas être là-bas.
Avec les charentaises aux pieds. Voilà. On remercie énormément d'ailleurs Bernadette une fois de plus. Moi, j'y serai pas cette année, donc je ne pourrai vous le dire. Il y a donc un gros dossier sur Angoulême avec donc justement Benoît Mouchard, le directeur artistique, qui parle en fait de tout son boulot donc par exemple qui répond à des questions sur enfin pour la 40e édition un hommage est fait à Uderzo.
Oui.
Tout à fait. Jean-Claude Denis, un président normal. Oui. Ça me rappelle quelque chose, voilà. Ouais. Donc puisque c'est le festival, c'est le président cette année du festival.
Il y aura tout un truc autour de Mickey, Donald et tout. Avec
j'y viens.
Pardon.
J'y viens. Andreas, qui est donc l'auteur invité par Jean-Christophe Denis, et c'est pas un mal, Andreas.
C'est pas Jean-Claude Denis.
Arrête de spoiler.
Je vais un peu vite.
Jean-Christophe Menu.
Leiji Matsumoto, l'auteur d'Albator, qui
de
sera
Captain
présent.
Harlock.
Captain Harlock, effectivement.
Ah tiens, alors qui
et de plein de choses.
Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il s'appelle pas Captain Harlock en France?
C'est une référence à un footballeur.
Non, pas du tout. Non, personne ne sait pourquoi il a changé de nom, Captain Harlock, en Albator.
Du tout.
C'est Eric Chardin qui a changé le nom. C'est véridique.
Parce excellent. Qu'en fait, je savais que ce mec était un génie.
Ouais.
Et ça ne fait que le confirmer.
Et en fait, c'est Eric Chardin qui devait faire la chanson du générique et il a trouvé, en accord avec les producteurs, enfin les distributeurs en France, que ça faisait trop proche de Captain Haddock. Donc du coup, il était fan de rugby. Il y avait un joueur de rugby qui s'appelait Ballator, et sa façon de jouer sur le terrain, en fait, il disait on aurait dit un albatros, donc il a fait une compression. C'est Chardin qui a dit ça va s'appeler Albator, c'est super.
Ouais.
Donc pendant ce temps, c'est génial parce que le réalisateur de l'émission est au téléphone, c'est super.
Alors, j'en profite, est-ce que quelqu'un a des feuilles à rouler?
Alors,
pas chez les auditeurs, bien entendu. Hein.
Voilà. Donc sinon, Eddie, on te dit bonjour quand même parce que t'es arrivé en retard.
Et bonjour et excusez-moi pour mon retard.
Y a pas de souci.
C'est une excuse en retard d'ailleurs. Hein.
Oui, d'accord. C'est bien. Toi, Festival d'Angoulême, est-ce que tu y as déjà été? Est-ce que tu souhaiterais y aller? Et si tu y allais, qu'est-ce que tu irais voir là-bas?
Je tiens à dire, véridique, la personne qui a appelé, c'est le CSA. Mais l'Institut de Sondage CSA.
Ah, d'accord.
Voilà, donc il y a une erreur. Si tu viendrais à Angoulême, Eddy, qu'est-ce que tu ferais, irais voir?
Poser beaucoup de questions là en même temps. Hein. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu
Non, lui il a dit qu'est-ce que tu ferais. Si tu viendrais à Angoulême, il a dit.
Alors, si on m'invite, ouais, moi je viens à Angoulême.
Oui. Oui, et qu'est-ce que tu irais voir là-bas?
Très bonne question. Je connais peu ce festival-là, honnêtement, hein, parce que c'est quelque chose qui est centré sur la BD, si je dis pas de bêtises.
Eh, pas mal.
T'as vu? C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hein. Donc j'ai bien entendu, on va dire comme les gens un petit peu cultivés, j'ai vu des documentaires, des reportages, etc. Mais je suis pas assez branché BD, on va dire, pour vraiment faire le déplacement par moi-même et me dire voilà super, je vais à Angoulême. Après, si quelqu'un nous écoute et qui veulent m'inviter à Gérard May, ça par contre, oui, je veux.
Ah oui, moi aussi.
Hein. Ouais.
Hein. Alors moi, l'inconvénient, c'est que moi, je fais 1m90, donc c'est un peu dur de me mettre dans le coffre. Mais toi, par contre, c'est mieux.
Ouais. Bon, alors, juste une question. Donc, parmi les classiques, il y a le dernier grand géant de la bande dessinée qui sera à Angoulême, à savoir Uderzo.
Élu homme de l'année 2012 par la rédaction d'Actu BD.
Exact. Oui, tout à fait.
Ça, j'aurais pas pu le sortir. Toi.
Une spéciale sur Disney, sur donc
j'y vais direct là. Oui, bah là Picsou, personnage préféré.
Les grands fans des illustrateurs comme Karl Barks, Floyd Grofferson et tout ça, ben évidemment, hein, on parle des classiques, oui. Seront tout à fait fans. Est-ce que toi ça t'intéresse justement cela?
Oui, ça, ça m'intéresse.
Et surtout, plus près du micro, s'il te plaît.
T'es en train de me montrer Picsou avec le récent achat de la licence Lucasfilm, ça me parle, moi. Oui, forcément, oui. Mmh. Je pense qu'il y a des choses à faire.
Et en même temps, on fait les 75 ans de Spirou. Alors Spirou, il y a un jubilé pour un groupe, à ce qui paraît, il y a une bande dessinée qui, d'abord, justement, toujours pour en revenir aux zoos, ben, il parle de la véritable histoire de Spirou, donc qui est sortie chez Dupuis, où on parle justement de la période difficile de l'occupation et tout ça. Mais surtout, donc, il y a un album de Spirou assez étonnant où on a une qui vient d'arriver, où en fait on a une, il brise le quatrième mur. Puisque en fait, eh ben, Fantasio est le rédacteur en chef du magazine Spirou, où en fait ils disent oui, on raconte nos aventures, on les scénarise et tout, etc. Sauf que le magazine Spirou est à deux doigts de la faillite et vient de se faire acheter par les multinationales qui rachètent tout, la marque, etc. Mais du coup, ça veut dire que Spirou ne peut plus sortir de chez lui, donc il lui achète une villa dans une île, etc. Et il est condamné à l'inactivité. Donc ils font un album d'aventure sur l'inactivité d'un mec qui se retrouve riche. Donc c'est l'idée, je la trouve assez géniale. J'ai vraiment hâte de le lire. C'est Velman au scénario et Johan qui le dessine. J'aimerais bien que Johan, qui est à moitié toulousain, vienne un de ces quatre justement pour en parler. Ce serait intéressant. En tout cas, moi j'ai vraiment 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 hâte de le lire. Voilà, tout ça c'est dans le zoo. À noter que Spirou, il y a une tournée Spirou pour les 75 ans, mais elle ne passe pas par Angoulême. Elle s'arrête à Rennes, elle s'arrête à Bordeaux, mais ne passera pas en Angoulême. Donc je suis sûr que Thomas, qui est en train de servir le café comme ça tranquille et zou, pourrait le dire mieux que moi. Mais en tout cas, moi je me souviens d'une période où Dupuis ne venait plus à Angoulême. C'était de 95, 96, 97, où en fait ils étaient dans un grand magasin à côté du festival. Il y avait quelques auteurs. Et là, ça fait quoi? Ça fait 3 ans hein, qu'ils ne sont plus à Angoulême depuis. 2 ans, je crois.
J'adore Thomas. Quelle implication!
Non, mais là, enfin bon, voilà.
Ok, et
c'est tout. Vas-y.
Je me permettrai une petite news au niveau.
Bien sûr, je suis là pour ça.
Ouais, super. C'est sur de la BD, sur des magazines, etc. Est-ce que si je te dis Metaluna, ça te parle?
Metaluna, oui, ouais. Vaguement.
Ouais, une revue, enfin, on va dire un fanzine qui avait été édité par Jean-Pierre Potters.
Mais c'était il y a longtemps, ça.
Ouais, donc ça continue. Et là, j'ai eu la news là, cette semaine, donc ça sort en kiosque maintenant. Donc ça y est, ils ont passé le cap.
Ils sont passés du prosine à distribution.
Ouais, et ça sort normalement fin janvier. Mmh. Et du coup, ils ont mixé ça avec une revue musicale. Donc ça va partir dans tous les sens. Il y a de la BD à l'intérieur. Ouais. Il y a de la musique, du cinéma, etc.
Eh ben, on va guetter ça dans les kiosques.
Eh ben, voilà, tu reviens pour en parler, s'il te plaît. Mets le micro un petit peu mieux. Voilà. Non, faut visser. Je vais lui montrer. En fait, faut sortir le micro et faut visser le petit bout. Non. C'est le petit bout qui est dévissé. Voilà.
Merci Thomas.
Voilà. Yeah. Merci. Le petit bout. Voilà, du sport, tu as de la BD.
Par le petit bout de la lorgnette. De la BD, ouais, avec justement, on parlait des
kiosques. Rappelons aux amis auditeurs que c'est une spéciale Tarantino, sinon. Hein.
Ouais, mais mais vite, quand même, il faut signaler cette sortie. C'est en kiosque, donc, hein, depuis pratiquement une quinzaine de jours, depuis début janvier, ça va sortir. Hein. En bimestriel, c'est-à-dire une fois tous les 2 mois, ça s'appelle Before Watchmen.
Yeah.
Enfin, on l'attendait, hein, disons qu'il y avait eu pas mal de tentatives.
Alan Moore ne l'attend absolument pas. Hein.
Non, mais je parle pas d'Alan Moore. Hein.
C'est-à-dire nous,
peut-être les gens qui veulent gagner du fric dessus, peut-être les gens qui se sont dit, putain, relever le défi de passer derrière ce truc, essayer de construire quelque chose qui correspond à l'idée qu'Alan Moore s'en fait en y ajoutant un petit peu d'inspiration personnelle. Bon, c'est un challenge, quoi. Je veux dire, même pour les mecs qui passent derrière, bon ben ok. Et bah ça sort enfin.
De toute façon, il y aura toujours des ronchons qui diront ouais, c'est à des années-lumière d'Alan Moore, que c'est de la merde, c'est un torchon, non, ils auraient jamais dû faire ça. Bon voilà, après c'est.
T'es violent dans ce que tu dis. Hein.
Oui.
Ah oui, non mais
on connaît les aficionados d'Alan Moore. Hein,
est-ce que c'est bien?
Absolument.
C'est bien.
Alors bah ils ont décidé chez DC de mettre quand même la barre un peu haute en y mettant. Alors là. Le découpage est un peu différent parce qu'on assiste aux histoires personnelles et au début personnel, on va dire, des différents personnages qu'on retrouve dans le Watchmen, le Watchmen originel, d'accord.
C'est-à-dire en fait, il n'y a pas de numéros qui sont spécialement dédiés à un personnage. En
si,
fait.
C'est ça. Ah, d'accord. C'est ça. C'est des histoires, hein, des histoires à suivre qui vont concerner donc pour ce premier numéro les Minutemen, Spectre Soyeux, le comédien, le hibou et Ozymandias. Mm. Sachant que Rossage fait une petite apparition dans un épisode et aura sa propre série à partir du numéro 3 de Before Watchmen.
Celle-là, on l'attend quand même. Hein.
D'accord. Ok, mais là déjà son apparition c'est pas mal. Dans le coup du, enfin avec le hibou là c'est pas mal, c'est sympa quoi. Je veux dire ça, y a pas de problème, ça fonctionne. Alors je vous disais qu'ils ont mis quand même la barre haute au niveau des scénaristes qui ont été attitrés aux différentes histoires. Darwin Cook, lui, il s'occupe des Minutemen, dessin et scénario. S'occupe également du Spectre Soyeux au scénario en compagnie d'Amanda Conner qui dessine donc le Spectre Soyeux. Le comédien c'est Brian Azzarello avec Gigi Jones, le hibou Joe Michael Straczynski avec Andy Kubert au dessin et le regretté Joe Kubert à l'ancrage. Ozymandias c'est Len Wein avec Jai Lee et Len Wein également pour le corsaire sanglant. Bah, vous savez cette histoire parallèle qu'il y avait dans le
pirates,
bouquin, c'est-à-dire qu'on l'a pas vu dans le film, mais dans le bouquin il y a cette histoire parallèle là, du corsaire. Donc Len Wein avec Joe Higgins.
Il y a eu un dessin animé en bonus du film. Hein, c'était un deuxième DVD.
Oui.
Qui a adapté cette partie-là.
D'accord. Alors bon, que dire ? C'est les débuts. Au début, on se dit putain, il faut reprendre toute la galaxie, des personnages, tout le truc. Sachant qu'en plus, eh bien, les histoires qui sont racontées sont pas forcément racontées à la même époque. Hein. Les Minutemen, c'est la fin des années 40. Ensuite, on a le Spectre Soyeux, c'est son enfance et sa mère. Là, l'histoire est très triste. Hein. C'est vraiment un truc. Pas mélo quoi, mais un truc dramatique, mais vraiment très lourd, très le comédien. Alors là, c'est carrément le truc explosif, quoi.
Oui.
C'est-à-dire,
oui, voilà,
ça change pas, c'est énorme carrément. Et l'histoire qui lui arrive dans ce premier numéro est carrément énorme. Là, je vous dis franchement, c'est la meilleure hein, de toutes, si vous voulez, en termes de choc scénaristique depuis le début. Hein, y a pas de problème. Le hibou est vraiment très très bien aussi. Ozymandias, y a pas de merde quoi. C'est-à-dire que ça commence vraiment hyper bien, tranquille. Ça se passe pas forcément aux mêmes époques, donc bon, pour l'instant y a pas trop d'interconnexion. Mais devine qu'il va y avoir une interconnexion, c'est-à-dire une réunion de tous ces super-héros. Mais quand, bah ça c'est à venir un petit peu plus tard parce que bah c'est avant les Watchmen. Bref, c'est carrément excellent. C'est à acheter à tout prix. Before Watchmen dans tous les bons kiosques, donc c'est le numéro de janvier-février, c'est le numéro 1 et c'est idéal pour
attaquer.
C'est
édité par qui ?
Et c'est édité par Urban Comics, hein, c'est-à-dire ceux qui font également Batman.
Bah c'est Dargo.
Oui, Urban Comics, c'est les distributeurs des DC en France. Hein.
Des DC, voilà, c'est ça. Quoi, de toute façon, c'est sorti chez DC Comics. Là, ouais, y a pas de problème, quoi.
Oui.
Petite pause musicale pour se lancer. Je pense qu'on va y aller cool, tranquille, calme. In love.
Oh oui.
Et quand tu veux, toi. Brother Johnson, Strawberry Letter 23.
Candy screen. I set them for a few.
C'est le supplément week-end sur Radio FMR, 12h26 sur les 89.1 MHz. Un petit moment in love, Bruce Johnson, Strawberry Letter 23, extrait de
Jackie Brown.
Bien vu. Et là, tu fais la pause du remixeur fou. L'aigle.
Il faudrait des caméras quand même. Hein, il faudrait des caméras. Ouais. Une version vidéo, quand même.
On y songeait à une époque. Spécial Tarantino.
Et voilà donc Django Unchained qui est sorti il y a la semaine dernière, je crois.
Ouais,
tout à fait. Donc avant d'arriver
à. Quelle précision.
Hey, t'as vu ça la semaine dernière.
Professionnel quoi. La semaine dernière. Oui, je crois. Oui.
Alors, à l'occasion de la sortie de Django Unchained, nous vous proposons une émission spéciale autour de Quentin Tarantino aujourd'hui, puisque nous allons aborder la filmographie du bonhomme. On va essayer de voir un petit peu les à côté, puisque le bonhomme est aussi scénariste, producteur, il a une connexion assez certaine dans le cinéma avec ses potes, Rodriguez, etc. Il a également été scénariste pour d'autres réalisateurs, on va aborder ce qui fait la patte de Tarantino, pourquoi il a eu ce succès-là, et...
Bref, si vous avez la flemme de lire IMDB en anglais ou de lire la Wikipédia...
On est là,
votre autoradio, dans votre baladeur et tout ça, profitez-en.
Et on fait de la paraphrase.
Sauf que nous, il y a des blagues dedans.
Ouais.
Voilà. Alors, l'ami Quentin, donc il a, ça participe à sa mythologie, hein, donc c'est quelqu'un qui n'a pas appris cinéma dans son école, mais en bossant dans un vidéoclub. Alors, vidéoclub s'appelle Archive, je crois, non?
Oui, vidéo Archive.
Vidéo Archive. Voilà. Qui a bossé pendant 5 ans dans ce vidéoclub. Et donc, qui a réussi à financer son premier long métrage, Reservoir Dogs. Déjà, c'était 92, puisqu'il faut savoir à l'époque au Festival de Cannes, il y avait deux Electron Libre qui étaient arrivés pour présenter des films un peu coup de poing, qui étaient donc l'équipe des Belges de C'est arrivé près de chez vous,
yes.
Et Reservoir Dogs, donc il y en a un qui a fait une grosse carrière et les et autres. Voilà,
c'est quand même les deux films qui ont permis à l'Utopia de Toulouse de survivre. Voilà.
Il fallait le dire.
Donc on attaque dans le vif du sujet. Donc on va essayer d'aborder chaque film, on va dire à peu près pourquoi ils ont marqué leur temps à chaque fois. Donc au début, donc Reservoir Dogs, premier film de Quentin Tarantino,
oui, pas le premier. Si tu as bien fait tes recherches,
oui,
tu sauras
un court-métrage avant.
Oui.
Qui avait Birthday dedans, je sais
voilà,
plus.
Voilà, voilà, c'est Birthday Party, machin chose, et qui n'a jamais été terminé.
Voilà, il avait dit pendant 3 ans, il avait bossé là-dessus, et voilà. Donc il essayait...
Soyons exhaustifs, hein, parce voilà. Que c'est marqué sur IMDB et Wikipédia, donc voilà.
Sachant que nous n'avons pas...
Il est tard.
Donc Reservoir Dogs, oui, donc forcément, bon, on va pas à chaque fois restituer toutes les histoires. Bon, il faut savoir juste que c'est un gang de tueurs qui sont recrutés pour faire un braquage.
C'est le seul film Tarantino où il n'y a pas de noir, mais où il y a un Mr. Black.
C'est vrai. Mais ils parlent tous comme des blacks.
Voilà. Donc c'est un sous-genre du polar, c'est un film de braquage dont on n'en verra jamais la moindre image. Le braquage.
Exact.
Voilà. Donc c'est la préparation du braquage et après le braquage. Donc voilà. Donc c'est casting de fou pour un jeune metteur en scène qui fait son premier long. Harvey Keitel, Tim Roth, Steve Buscemi, Michael Madsen, avec la scène de l'oreille, formidable, souvenez-vous.
Monsieur Blonde.
Oh, non, s'il vous plaît.
Stackle Mid. Stuckle the Middle with You. Voilà.
Et ouais, et t'as pas cet écrivain aussi, Bukowski ou.
Non. Charles Bukowski?
Non, c'est Edward Bunker.
Edward Bunker, voilà. Voilà. C'est un écrivain, c'est ça, si je dis pas de bêtises.
Ouais, tout à fait.
Et c'est dès cette époque-là que Tarantino va mettre en place aussi ce gimmick, donc, qui veut qu'il apparaisse dans ses films aussi, puisqu'il joue Mr. Brown.
Brown, ouais, il y a une blague là-dessus.
Sounds like Mr. Shit.
Voilà.
Donc Reservoir Dogs, film ultra-violent qui, quand on fait les rétrospectives de Tarantino, les gens ne le mentionnent pas assez, mais c'est un remake déguisé.
Ouais.
Donc d'un film de Ringo Lam avec Channing Fat, dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle City on Fire.
City
voilà.
On Fire, oui.
Voilà. La trilogie on Fire de Ringo Lam, Prison Fire, City on Fire. Et le dernier...
Woman in Fire.
Non, pas Woman, non, c'était notre on Fire, voilà. Donc Reservoir Dogs, voilà, quelques mots sur le film, ultra-violent, mise en place de l'univers, donc gang de gangsters, enfin donc avec des costards ultra-classe, lunettes de soleil, avec cette affiche là qui est très très, très représentative.
Et puis aussi une claque pour toute une génération, parce qu'on avait quelqu'un qui faisait du cinéma et qui était un peu comme nous, qui
voilà.
regardait des films et on s'est dit... On pourrait nous aussi faire du cinéma. Et puis t'avais aussi le début du cynisme, on va dire, du second degré, avec des personnages qui parlent de films, avec des références, etc. Et ça, c'était la nouveauté de l'époque.
Voilà, c'est la patte aussi, celle de l'écriture. Ce sont des gangsters qui sont donc par définition loin de nous, mais dans les conversations, c'est des conversations que nous on aurait pu avoir.
Exact.
Donc ça s'ouvre par exemple sur une scène dans un McDo, je crois.
Oui, là la scène du pour
dans un dîner
pour sur Madonna.
Voilà.
Like a Virgin, voilà.
Qui, d'ailleurs, interprétation géniale hein, de ce dialogue hein,
voilà.
Sur Like a Virgin. C'était très bien.
Les scènes marquantes du film, donc évidemment, la scène de. Alors, c'est ce qui deviendra aussi la marque de fabrique de Tarantino. Il y a à peu près toujours une scène de torture dans chaque film. Donc, ça, c'est la scène de l'oreille. Hein. Un gars qui se fait couper l'oreille par Michael Madsen, qui est complètement fou furieux et en roue libre, qui est génialissime.
Génial. Le rôle de sa vie, je crois.
Oui. Donc voilà, bon, à peu près ce qu'on pouvait dire sur Reservoir Dogs. Donc un premier essai qui a planté le décor et qui a été confirmé 2 ans plus tard par la sortie de Pulp Fiction, quand même donc film générationnel. Mm-hmm. 94, Palme d'Or à Cannes, prix du meilleur scénario aux Oscars.
Oui.
Film
film totalement déconstruit qui, à ce qui paraît, était 3 scripts différents qui sont envolés dans un coup de vent.
Oui. Et
ça c'est la légende, c'est ce qu'il a dit, et c'est peut-être justement l'idée géniale du film en soi, c'est ces histoires qui s'entrechoquent et sans aucun rapport.
Si, il y a des rapports, mais lointains.
Oui, ouais.
Enfin,
Et superbe pub aussi pour la prévention routière. Ne roulez pas en tenant un flingue chargé.
Exact. Dixit Marvin.
Voilà. Voilà.
Du coup, je ferai une petite parenthèse sur ce que tu viens de dire. Et c'est vrai qu'on a le côté un peu la construction, plusieurs histoires qui s'entrechoquent. C'est aussi lié, parce que je suis l'avocat de Roger Avary aujourd'hui.
Oui.
C'est aussi lié parce que les débuts de Tarantino ont été faits à 4 mains, on va dire. Que ça soit True Romance, que ça soit Reservoir Dogs aussi, qui a été influencé par le travail qu'il avait fait avec Roger Avary, et Pulp Fiction. Donc moi j'avais vu un docu sur Killing Zoe où vous expliquez que toutes ces histoires là, eux ils les avaient écrites et qu'ils s'en sont resservis pour des scènes qu'ils ont réinclus dans d'autres films. Donc c'est pour ça que on a ce côté un petit peu ça s'entrechoque quoi.
Oui, et donc on allait y revenir après sur la carrière de scénariste avant de Tarantino pour d'autres réalisateurs, mais comme c'est pas grave parce que chronologiquement on aurait dû en parler avant. Donc évidemment Tarantino à cette époque-là avait développé des scénarios pour le film Liverstone qui leur avait valu une brouille entre les deux sur Tueur Né, Natural Born Killers. Il avait aussi écrit le script de True Romance. Donc, dont on avait parlé pour le décès de feu Tony Scott, voilà, paix à son âme. Donc, il a aussi scénarisé par la suite d'autres films pour son pote Rodriguez, par exemple, dans lequel il jouait.
Tu oublies aussi qu'il a une contribution sur USS Alabama.
Oui, et d'ailleurs, avec ce fameux dialogue décrié.
Non, on va pas
de...
revenir sur le Silver Surfer.
Oui, voilà, et où Scotty.
Jack Kirby ou Moebius.
Oui.
Citation d'un auteur, d'un dessinateur français dans un film américain.
Et ça, c'est la
qui contribue beaucoup, qui a beaucoup contribué, pardon, au cinéma américain. Mais là, pour une fois, cité dans un film où il n'intervenait pas, ça, c'était grand.
Ça, c'est grand.
Ouais. Donc, Pulp Fiction, tu as commencé à parler de Roger Avary. Pourquoi Roger Avary n'est pas si souvent cité dans les rétrospectives sur Tarantino?
Alors, parce que, historiquement, bien entendu, alors je vais le redire, je me suis refait toute la filmo de Roger Avary, j'ai essayé de décortiquer, de comprendre, et c'est vrai que ces bonus-là m'ont bien aidé, et la problématique, en fait, est venue de True Romance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais la faire courte, hein, parce qu'on a d'autres choses à dire, c'est que True Romance, à la base, est un script de Roger Avary, que Tarantino a pris, a retravaillé pour l'appeler True Romance, et ainsi de suite, ils se sont mis à travailler sur d'autres scripts, ça a donné Pulp Fiction, etc. Et puis à un moment donné, eh ben, effectivement, quand on est deux, ben, il y en a toujours un qui est plus en avant que l'autre, on va dire le commercial et l'homme de l'ombre, et c'est Tarantino, en fait, du coup, qui a eu les projecteurs braqués sur lui. Et ben le pote Roger Avary, bon, il lui a produit Killing Zoé pour être sympa, etc. Mais à un moment donné, il y a une histoire de dessous de table. Il faut savoir que Roger Avary, dans les crédits de Pulp Fiction, est notifié comme, non pas scénariste, mais d'après une histoire de Roger Avary et Quentin Tarantino, mais scénarisé par Quentin Tarantino. Et il faut savoir que Quentin Tarantino lui aurait proposé de l'argent pour qu'il n'apparaisse pas comme co-scénariste. Du coup, c'est venu. Alors ça, c'est l'histoire. Hein, c'est ce que j'ai entendu. Hein. C'est venu aux oreilles, donc pour les Oscars, je sais pas, la corporation, je sais pas comment on appelle ça.
Le syndicat.
L'Academy Awards. La guilde. Des Oscars,
oui. Voilà.
Oui, la guilde.
Et il a été réintroduit comme scénariste officiel, comme co-scénariste. C'est pour ça qu'ils ont partagé la Palme d'Or. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la brouille et qu'ils n'ont plus retravaillé ensemble.
Ah là là. Les histoires dessous, même pour les geeks comme nous qui ont fait du cinéma et qui ont la mythologie sur. Et oui, je travaille dans ce vidéoclub. Et oui, ils sont pas meilleurs que nous. En fait.
Et on oublie aussi la contribution importante à la carrière de Tarantino, Avary, etc. De toute cette clique de Samuel Adida, le producteur français, car il a monté le projet True Romance avant que Reservoir Dogs soit fait. Reservoir Dogs s'est fait en parallèle, c'est lui qui l'a amené à Cannes, et ainsi de suite. Après, il a produit Killing Zoé, et après, ça fait des petits. Et c'est vrai que Samuel Adida, finalement, a un rôle assez important dans le démarrage de sa carrière.
Un rôle insoupçonnable quand on sait qu'aujourd'hui, il distribue les Resident Evil.
Et les Silent Hill 3D, on est d'accord. Hein,
voilà.
On
alors,
est d'accord.
Alors oui, donc nous sommes là aussi pour décrypter, pour aller un peu au-delà de la simple énumération de la filmographie, parce que on peut avoir un diptyque avec Reservoir Dogs et Pulp Fiction. Ensuite, il y a
avant qu'on quitte Pulp Fiction, c'est le premier à avoir une bande son. Et quelle bande son ? Et c'est vrai que c'est ce qui a fait vraiment la marque de fabrique à partir de là. Tarantino.
Oui,
puisque elle n'est pas vraiment présente en fait dans Reservoir Dogs. Elle est même pratiquement absente pour les raisons de droit. Tandis que dans Pulp Fiction,
oui,
on l'entend.
Alors il y a quasiment pas de bande son, mais par contre les morceaux qu'on entend dedans, ils sont mémorables.
Reservoir
Dogs. Hein, voilà. Jackie Brown, 97, donc 3 ans après adaptation d'un roman d'Elmore Leonard, qui avait aussi donné Out of Sight, Hors d'atteinte, avec George Clooney et Jennifer Lopez. Donc Jackie Brown est quand même une exception dans la filmo de Tarantino, puisque c'est également donc c'est sa seule adaptation d'après un script qu'il n'a pas écrit, et qui pour moi est son meilleur film, puisque c'est quand même le film qui respire, qui où il y a plein de on voit que c'est un film de maturité, quoi. C'est un film sur la nostalgie, sur nostalgie des années 70, qu'il assume beaucoup plus que les autres films et qui est sur la vieillesse, en fait. Quand tu vois,
Enfin, les autres films, c'est pareil. C'est un petit peu aussi la nostalgie, mais la nostalgie vécue à travers les films qu'il a pu voir de cette époque-là, qu'il essaie de reproduire après dans Kill Bill un peu plus tard et dans Django là tout récemment, quoi. C'est également une nostalgie d'un genre de cinéma de l'époque à laquelle ce cinéma sortait dans les salles. C'est aussi cette nostalgie-là, hein, de toute façon. Quoi.
Oui, mais là, en fait, il en parle à travers le corps de ces comédiens qui ont vieilli, avec des dialogues qui sont vraiment géniaux, des scènes qui sont superbes entre, par exemple, Pam Grier et Robert Foster, où il parle, lui, de sa calvitie, elle, qu'elle a pris des formes. Ce sont des scènes qui sont vraiment touchantes par rapport au reste de la filmo de Tarantino, où c'est plutôt la blague, ouais, second degré, je suis cool et tout, alors que là, c'est vraiment, c'est touchant, quoi. C'est des scènes qui sont vraiment à part dans sa filmo. C'est un film où les meurtres, il n'y en a pas vraiment tant que ça, et ils sont hors champ, donc ils se concentrent sur l'essentiel, et c'est un truc classe, quoi.
On voit un truc dans un coffre de très loin de nuit, on voit un coup hors champ dans une bagnole.
Ouais, il n'y a pas le quota des figures attendues de Tarantino dans ce film-là.
Alors après, il y a la scène des toilettes, il y a la scène, il y a le plan d'un tailleur du coffre, il y a toujours ces gimmicks, le plan sur le fétichisme des pieds, également de Brigitte Fonda, mais voilà, c'est beaucoup plus, c'est un rythme lent, t'as De Niro aussi dedans, c'est l'une des premières apparitions d'un monstre sacré cinéma, même s'il y avait Harvey Keitel avant, mais là c'est, oui.
Alors, puisqu'on parlait d'éthique, justement, de Tarantino, puisque c'est quelque chose qu'on revoit souvent, on vous invite à aller voir une vidéo remixée avec tous les extraits de Tarantino qui est fait par Eclectic Method, si je me souviens bien, où il montre toutes les tous les montages de Tarantino, mm-hmm. c'est-à-dire quand il ferme le coffre et tout ça.
Le plan des pieds, le plan des miroirs.
Tous, mis les uns à la suite des autres, oui. Avec un remix de la bande-son qui est absolument, à tomber. On vous mettra le lien, bien sûr.
Donc Jackie Brown, on n'avait pas résumé Pulp Fiction, mais Jackie Brown, grosso modo, c'est une hôtesse de l'air, donc incarnée par Pam Grier, qui est une des actrices numéro 1 de la Blaxploitation, qui est dans le collimateur de la brigade des frontières, en fait, qui passe de l'argent pour Ordell Robbie, qui est un trafiquant d'armes un peu miteux, joué par Samuel Jackson. Et donc il va y avoir une petite romance entre le prêteur sur gage et donc cette hôtesse de l'air, et il va y avoir une espèce de d'arnaque générale sur un magot où elle va essayer de rouler les flics, elle va essayer de rouler les trafiquants, etc. Avec toute une galerie de personnages tous plus losers les uns que les autres qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu et qui va forcément mal se finir pour certains. Voilà.
C'est la patte de Delmore Léonard qui est là présente.
Voilà, avec un casting évidemment totalement décalé et avec des grands noms quand même, Michael Keaton, Brigitte Fonda, De Niro, on en oublie certains également. Donc voilà, c'est Jackie Brown, pour moi c'est la classe incarnée, ce film, sans l'exubérance qu'on pourrait reprocher aussi à sur certains films de Tarantino. Ça reste de loin mon film préféré, je sais pas pour vous, mais
il est bien, mais bon, après non, honnêtement, si tu parlais Elmore Leonard hors d'atteinte, moi ça me parlait plus. Bon. Après, je suis désolé. Après, chacun ses goûts, mais okay. Jackie Brown est bien.
Ouais, non, mais bon, si on prend uniquement la carrière, enfin la filmographie de Tarantino, c'est vrai que pour moi, Jackie Brown, c'est également pour moi le meilleur film qu'il ait fait.
De toute façon, quoi.
Après, bon, c'est vrai que des adaptations d'Elmore Leonard, il y a peut-être d'autres qui sont plus réussies, qui sont différentes, on va dire, qui est peut-être plus dans l'esprit pur d'Elmore Leonard, parce que c'est vrai que il y a une dimension très mélodramatique dans Jackie Brown qui n'existe pas dans ses autres films, hein, c'est-à-dire cette lenteur justement, quoi, qui se remarque, quoi, à la différence des autres films qu'il a pu faire précédemment. Et là, bon, c'est vrai qu'on est dans un registre vraiment plus classique, genre, je vous montre que moi aussi je peux faire du gros film hollywoodien vachement classique, bien filmé, bien léché, avec une histoire, un truc qui se passe vachement bien ou vachement mal. Mais bon, c'est vrai que ce film-là, pour lui, c'est, je pense, la façon de dire, quoi, à l'industrie et à tout le monde, regardez, j'ai fait un film, les gars, quoi.
Alors,
vendu, il faut que je le revoie.
Alors, afin de laisser le temps à Xavier de
certainement... Ça, c'est
calé. Ok, donc, on rappelle que vous êtes sur Radio FMR 89.1, que nous sommes au cours, nous vous proposons une spéciale Quentin Tarantino à l'occasion de la sortie de Django Unchained. Et avant d'aborder le diptyque Kill Bill 1 et 2, on va vous passer le morceau qui est un morceau en hommage au cinéma japonais.
Oui, pardon. Oh, excuse-moi.
il me disait qu'il était
et pourtant
calé.
Il a mis plein de blancs, hein, dans sa phrase, qui est un morceau.
Mais il m'a pas prévenu que c'était celui-là, ce morceau-là qu'il voulait, parce que le problème, c'est que c'est sur le même CD, en fait, l'intro. Ah. Meiko Kaji, The Flower of Carnage, extrait de la bande-son de Lady Snowblood, et qu'on retrouve donc dans Kill Bill.
「涙は塔に捨てました」 振り向いた川に遠ざかる旅の日が、いてた鶴は動かず泣いた雨と風、冷えた水もにほつれ髪映し、涙さえ見せない蛇の目の傘ひとつ、恨みの道を行く女、心はどうに捨てました。縁のない言葉、恨みの川に身を委ね、女はとうに捨てました。
Meiko Kaji, donc, qui était à la fois l'actrice et l'interprète de la bande son de ce morceau, donc The Flower of Carnage, qui est donc dans le film de Kazuo, dans le film Lady Snowblood, adapté de la bande dessinée de Kazuo Koike, qui est un manga des années 70, un grand classique, qui a été traduit en France chez Kana dans la collection Sensei. On vous renverra évidemment dans le billet associé à l'émission vers la chronique en question. Et qui est en fait, le film avait vraiment marqué Tarantino, et justement, il fallait qu'il en fasse un hommage, sauf que c'était un hommage en deux parties.
Alors voilà, donc nous sommes à Kill Bill, le diptyque de Kill Bill.
Il a bien introduit le truc.
Oui, et très très bien, très très bien, très pro.
Ah, rock and roll.
Mais non, attends, c'était les foot ça.
Ouais, j'allais te dire, c'était les foot ça.
Mais ouais.
Oh merde.
Bon, allez.
Alors, Kill Bill 1 et 2, sorti 2003-2004. Donc, Kill Bill 1 qui se voulait. Kill Bill 1, le premier épisode qui se voulait un hommage au cinéma japonais. Le deuxième était plutôt un hommage au cinéma hongkongais. Voilà, donc.
Le deuxième, tu trouves que ça...
Oui. Ah oui. Ah, oui. Avec le maître Gordon Liu, qui, avec sa barbe, qui est dans les montagnes rocheuses, oui. Plus kung fu. La première.
Y a western, quand même.
Mais bon.
Mais
de toute façon, t'as un sous-texte western de tous les films de Tarantino.
De toute façon, dans tous les films.
Voilà, excepté peut-être dans Jackie Brown, mais t'as un côté western à chaque fois.
Bon, m'engueulez pas, hein, c'est bon.
Il faut quand même accepter, quand on dit des contre-vérités, qu'on se fasse après.
Ah,
voilà.
Voilà, stagiaire, café, merci.
De rien.
Dans Kill Bill, on va dire le film le plus décoincé, le plus extrême dans la référence à tout prix, le plus, on va dire, pas adolescent, mais allez, voilà, c'est le lâchage complet.
Ben oui, justement, il a fait Jackie Brown, c'est ce que je disais avant.
Il a montré,
regardez, je suis capable de faire un truc super cool,
en
clean,
maturité, voilà.
Mature et tout, ouais. Et puis bon... Donnez-moi les coups des franches, les gars. Voilà. Allez, vas-y.
Voilà. Oh, et puis merde, allez, je fais mon hommage au cinéma japonais. Du sabre, de la castagne, des tripes, des nanas éborgnées, voilà.
C'est donc, cool, les nanas éborgnées.
Ouais. Alors, faut savoir que le script original, il l'a offert à Uma Thurman pour son anniversaire. Il avait dit The Bride, partie 1, partie 2.
Ça, ça lui a pas coûté cher, en fait, hein.
Ouais, un cadeau.
Non, mais c'est vrai, personne pense à offrir des scripts à des nanas. Enfin,
voilà, enfin, si, bref, surtout que c'est un cadeau pour lui aussi, puisque.
Oui.
Voilà. Oui, c'est vrai qu'un bouquet de fleurs, des fois. Bon.
Non.
Alors, Kill Bill.
Qui offre des bouquets de fleurs alors, tu vois, personne.
Certainement pas ici, en tout cas.
Oui.
Bon. Ah bon?
On avance, oui.
Donc, Kill Bill, ça a quand même le deuxième film générationnel de Tarantino, quand même. Parce que, bon, Pulp Fiction, c'était la génération d'avant. Kill Bill, aujourd'hui, pour une certaine génération, ça a été le Pulp Fiction des gens plus âgés. Mm. Kill Bill, donc, costume de haie. Hey, t'as vu? Réflexion.
C'est bien, je suis en train de me refaire la phrase, là.
Ça m'est venu cette nuit, ça. Ouais, t'as vu ça?
Ah, c'est magnifique.
Ouais. Donc Uma Thurman, donc dans ce costume inspiré de du jeu de la mort, de la tripaille et des combats au sabre, Sonny Chiba, qui avait déjà une référence à Sonny Chiba dans True Romance, voilà, il convoque toute la mythologie qu'il a aimé, toujours film déconstruit avec la fin qui est au début, le début qui est à la fin avec des déconstructions comme ça. Il y a c'est un hommage à Uma Thurman, à son actrice fétiche de toute façon. Mm-hmm. La deuxième partie beaucoup plus posée, beaucoup plus bavarde, avec plus David Carradine au centre de l'intrigue. Donc là, effectivement,
en même temps, c'est Bill. Hein.
Oui, c'est Bill. Et voilà. Donc l'histoire, la mariée, donc voilà, alias Black Mamba, alias Béatrice Kiddo.
Connard, tu m'as eu.
T'es en train de spoiler,
oh,
quoi.
Oh, j'ai spoilé le nom de la nana, donc voilà, qui reste un mystère.
Oh non.
Donc qui
c'est la première fois que j'arrive pas à passer le bip au bon endroit.
Donc qui veut se venger donc de Bill qu'il a laissé pour morte alors qu'elle allait se marier avec quelqu'un d'autre, et donc dans ce diptyque elle va se venger de l'ancien clan de Bill, et pour finir par Bill forcément, pour rayer tous les noms de la liste. Hommage au Western Spaghetti, hommage au film de sabre, au film de kung-fu,
au film noir,
au film de zombies, au film de vengeance,
au dessin animé japonais.
Oui, il y a un passage dessin animé japonais qui est absolument superbe.
Et pas par n'importe qui.
Oui, tout à fait.
Je vais dire une connerie, mais apparemment tout le monde est d'accord.
Bah oui, au film de mort-vivant, quand elle sort du cercueil,
c'est
avec
très bien. Alors,
c'est absolument génial. C'est vrai que aussi, avoir donc fait ce segment en animation qui est quand même avec l'un des meilleurs studios d'animation au Japon.
C'était Madhouse, je crois. Hein.
Oui. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est eux, effectivement. Oui.
Enfin, studio qui avait déjà participé aux Animatrix, en tout cas.
Le nombre de références est absolument hallucinant dans ce double film.
Voilà, donc double film qui était quand même assez réussi, qui est placé en top liste par beaucoup, beaucoup de gens. Certes, il est exubérant, certes, il est bien fichu, et certes, il est extrêmement jouissif. Après, c'est quand même la cour de récré géante. Tu te dis, voilà, c'est pourtant simple de s'éclater au cinéma. Après, est-ce que c'est en numéro 1 de la top liste de Tarantino pour nous? Peut-être pas, mais en tout cas, il est bien placé, et que c'est un film qu'on prend toujours beaucoup de plaisir à voir. Moi, personnellement, j'essaie de me le regarder au moins une fois par an.
Également.
C'est voilà. Bon.
C'est facile, il est régulièrement rediffusé.
Donc Kill Bill, voilà ce qu'on pouvait dire sur le diptyque qui marque, on va dire, un gros tournant dans la carrière de Tarantino, qui va trouver son écho juste après dans la veine. Et puis fuck off la carrière, on va se faire plaisir. Tiens, mon pote.
Il en a plus besoin déjà. Les frères Weinstein n'osent même plus couper. Ils disent oh, pff, il coupe tout seul.
il a tellement coupé de corps dans le film.
Cizorane va être content.
Donc un diptyque.
On parle du producteur, hein, voilà.
Oui. Donc un diptyque. Tu dois d'ailleurs me rendre le bouquin.
Hein,
ça fait des années
vrai.
Que tu l'as. Un diptyque qui est suivi.
Les auditeurs sont contents de savoir ça.
Oui. Tout à fait.
On s'en fout. Allez, on avance.
Allez, un diptyque qui est suivi ensuite de Grindhouse, le double programme concocté par Rodriguez et Tarantino. Rodriguez qui est l'alter ego de Tarantino au cinéma. On va dire du gars qui. Allez, on ose. Le gars qui fait du sous-Tarantino.
Messieurs, soit je coupe les micros, soit je dis ce que j'en pense. Pour moi, Roberto Rodriguez, il est en cuisine, et Tarantino, il est à l'assiette. Et seuls ceux qui ont vu les bonus DVD de Roberto Rodriguez peuvent savoir qu'effectivement Roberto Rodriguez cuisine, et des fois Tarantino, quand il se pointe, il lui met un menu sous les yeux, il dit tout vaut quoi.
Voilà, on peut résumer ça en disant que ceux qui ont vu les bonus des films de Rodriguez voient qu'il est en cuisine, et ceux qui ont vu les interviews de Tarantino, on voit qu'il aime bien manger. Voilà.
D'accord. Hein, ouais, non, mais tu peux pas dire qu'il fait du sous Tarantino.
Si, je peux le dire, et d'ailleurs, je le dis d'ailleurs.
Non.
Si, quand tu vois le double programme Grindhouse, tu vois qu'il y en a un qui est en haut du panier et que l'autre qui est un suiveur.
C'est une parodie, ce. Voilà, c'est une parodie. une parodie de débat critique, je suis désolé, c'est n'importe quoi.
Allez, vas-y, continue Thomas.
Donc Boulevard de la Mort de Tarantino, c'est qui est on va dire que c'est une récréation un hommage au film
il est
de
vexé, il est vexé.
au film de cascadeur.
Ça aussi c'est un hommage musicalement.
Et au pied. Et au pied féminin.
Et au pied féminin. Donc
avec la petite musique derrière.
Voilà, pour ceux qui veulent savoir, c'est...
En préparant l'émission, tu m'avais dit en off, c'est à cette époque-là que Tarantino commence à se regarder shooter.
Oui.
Mais c'est le dernier film où c'est quand même du grand cinéma. Parce que c'est quand même...
Tu es un homme de paradoxe.
Oui, parce que c'est quand même... Pourquoi un homme de paradoxe?
Non mais vas-y, développe.
Dans Boulevard de la Mort, c'est quand même... Tu vois que le pitch de départ, le point de départ de la fabrication de ce film, c'est quand même une grosse blague, puisque c'est... On se refait un double programme comme dans les années 70. T'as vu, on fait comme les réalisateurs qu'on aime bien. Par contre, il réussit. Et c'est là que je dis que l'autre fait du sous-Tarantino. Il réussit à faire un vrai film, quoi. L'autre, c'est une parodie de film de zombies où... Les séquences de poursuite de voiture à la fin de Boulevard de la Mort, c'est du vrai cinéma.
Oui, mais sur alors deux que heures, l'autre... t'as 10 minutes de vrai cinéma, ça fait quand même pas baiser. Hein.
Oui, mais Roberto Rodriguez, parfois, ne sait pas architecturer le milieu de ses films, et là, il s'en est sorti en perdant une bobine. Il s'est pas fait chier.
Mais oui.
Je suis désolé, Boulevard de la Mort est très...
C'est un autre débat que nous ferons dans une émission spéciale Rodriguez.
Spécial Boulevard de la Mort.
Voilà.
Voilà. Bon, apparemment, personne n'est enclin à parler de Boulevard de la Mort ici. Donc,
non, mais... quelques mots, Boulevard de la Mort.
Oui, c'est Kurt Russell, de toute façon.
Oui, ouais, voilà. C'est Kurt Russell, et ça nous permet de faire une parenthèse sur le fait que Tarantino, quand même, c'est quand même l'un des rares réalisateurs qui arrive à remettre des stars sur le déclin en avant. Et ça, Pam Grier, etc.
Alors, ça tombe très très bien ce que tu es en train de dire, parce que justement, le Boulevard de la Mort sera le dernier film où il sera dans cette logique-là. Puisqu'à partir de Inglourious Basterds, à mon avis, il y a une coupure. Je sais pas ce qui s'est passé sur Boulevard de la Mort, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est dit, je vais quand même me mettre à faire des films qui sont en accord avec mon statut de réalisateur culte. C'est-à-dire que Boulevard de la Mort, ça reste une blague. Il faut que je me lève un peu au-dessus de ça. Et c'est à partir de Inglourious Basterds qu'il va se mettre à faire tourner des stars bankable du moment. Kurt Russell, c'est le dernier has-been, enfin, ou le dernier.
Non, Bruce Willis, c'était pas has-been à l'époque.
À cette époque. Acteurs de Pulp Fiction à cette époque-là, à part Vingram, bon, qui a jamais eu une carrière non plus phénoménale, ils étaient plus ou moins has-been.
Bruce Willis, c'était un an avant qu'ils se remettent en selle avec le double film, donc, Cinquième élément et, Die Hard 3.
Ouais.
Et à cette époque-là, c'était à l'époque de Kiss of Death, où il était devenu un acteur un peu.
Chacal, tout ça.
Oui, voilà, c'était les films underground, un peu de série B, voilà. Et Pulp Fiction n'a pas eu l'écho c'est pas le film qui a relancé Bruce Willis comme il a relancé Travolta, mais à cette époque-là, oui, Tarantino faisait jouer des acteurs qui n'étaient plus des acteurs bankable de la top list. À partir de la fin de Boulevard de la Mort, il se met à faire tourner des stars, quoi.
C'est aussi le moment où il n'est plus dans une période contemporaine.
Oui, voilà, les films d'époque, oui, voilà, exactement. Oui.
Il va vers le film d'époque, vers ce qu'on appelle le film en costume, c'est-à-dire soi-disant historique, hein, c'est quand même n'importe quoi pour ceux qui ont vu la fin, hein, ils savent que c'est n'importe quoi, mais d'ailleurs dans... Ah, ce qui paraît, il y a eu... Enfin bon...
Oui, à partir d'un Inglourious Basterds, il commence à changer l'histoire, mais juste entre Boulevard de la Mort et Inglourious Basterds, il y a une coupure, et sans passer pour le vieux réac, à mon avis, c'est là qu'il commence à devenir presque moins intéressant, quoi. On voit qu'il essaie de jouer dans la cour des grands, dans le vieux classicisme hollywoodien, et c'est là qu'il perd un peu, c'est-à-dire qu'il perd de l'énergie, les films commencent à devenir assez longs, parce que ce qui était la marque de fabrique Tarantino, qui était le décalage où on attendait quelque chose à l'écran et ça se passe pas, là c'est poussé à l'extrême. Alors après, est-ce que c'est la marque des grands auteurs? Certainement, mais selon moi, c'est là où les films commencent à avoir des rythmes très 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 bancals. Donc après... Oui, il se regarde shooter, voilà. Et Gross Bastard, il commence à se perdre. Il y a quelques scènes qui continuent de marcher très 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 bien. Christophe Waltz, voilà, découvert du film. Donc, il a toujours le chic pour découvrir des acteurs inconnus. Mais Brad Pitt qui est en roue libre avec son accent italien. Bon, ça reste.
Quand tu voyais avant que le film sorte, on te promettait en fait une version douce salopard, etc. Oui. finalement, c'est même pas ce que t'as. Au final, ils sont mis de côté, hein, vraiment.
Oui.
C'est, oui, finalement, la vraie héroïne, c'est la salle qui tient, la salle de cinéma.
Ouais, ouais, c'est oui, ça,
c'est la française, ouais.
Je voudrais juste faire une petite parenthèse et profiter qu'exceptionnellement, le podcast sera en stéréo et aussi qu'il est 13h pile pour laisser passer le top sonore, pour une fois. On calibre. Voilà.
Donc, Inglourious Basterds, on a été sur ce film. Tarantino qui commence à tenter la température en disant hommage aux 12 salopards, mais aussi hommage à une partie de son cinéma qui devient plus western. Généralement, quand les grands réalisateurs qui se réclament d'un genre particulier qui n'osent pas jusqu'à pendant un certain moment s'y confronter, c'est aussi le cas de Carpenter qui n'a jamais franchi le pas. Il aurait pu à un moment donné, mais le fait que ses films se soient cassés la figure au box-office ont fait qu'il ne s'est jamais vraiment confronté, vraiment il s'est jamais essayé au fou frontal avec le western.
Tarantino... Ouais, bah Vampire quand même, c'est vachement western, moi je trouve. Quoi.
Oui, mais c'est déguisé.
C'est vraiment le film. Western à fond.
C'est le film le plus westernien qu'il ait fait, mais Tarantino est allé plus loin en faisant aujourd'hui avec Django un western pur. Ah oui, c'est quand même un western pur.
Moi, je dirais plutôt qu'il y a le contexte du western. Alors, je sais pas si on est d'accord là-dessus. Je dirais plutôt qu'il prend le western pour raconter l'histoire qu'il a envie de raconter, quoi.
Oui,
mais il fait pas un western pour faire un western. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eu, quoi.
Après, pas le regard crépusculaire qu'aurait pu avoir Eastwood, par exemple, où il convoque toutes les figures du western.
Là,
voilà.
On est vraiment dans un autre extrême,
oui,
c'est sûr.
Oui, oui.
Mais c'est vrai que tu sens déjà dans Inglourious avec l'intro, hein, la fameuse intro d'Inglourious,
oui,
qui est l'envie de faire du western.
Oui, qui est au plan près, celle du Bon Labo et tout le truand, qui est le film préféré de tous les temps de Tarantino, hein, qui est aussi le mien. Mais
ouais. Sauf comme je te disais en off,
oui.
Dans le bon labo, bref.
Dans
Inglourious
Basterds, oui.
Voilà, ça ne mène à rien le début. Enfin, bon, voilà, je le dis à tous les fans d'Inglourious Basterds qui écoutent cette émission, le début est vain et ne mène à rien. Voilà.
C'est une citation.
Il plante le décor sur le personnage du colonel Landa, sur le début de la vengeance de la nana, qui a aussi un terme de vengeance qui revient à peu près dans tous ses films aussi.
Oui,
hein.
C'est vrai qu'il fait. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. T'as raison. C'est toujours des films plus ou moins de vengeance. Hein.
Oui.
Du rape and revenge, mais sans le rape. Voilà. Sans le rape.
Ok. Ben, ça nous amène, franchement. Bon, on va finir quand même la carrière de Tarantino avant de parler de Django.
Oui, parce qu'on ne parlera pas de Django. Hein. Enfin, voilà. Faut quand même le dire.
Donc Tarantino, là, c'est plutôt la partie de du sport, même si voilà, on va tous en parler. Donc c'est Tarantino a quand même.
En fait, dans la réunion téléphonique, il nous a dit, je les ai pas vus.
Tarantino a quand même mis en scène deux épisodes des Experts au cours de la saison 5.
C'est un double épisode.
Oui, voilà.
C'est la fin de la saison, en fait. Quoi, en
C'est l'un des rares cas où, justement, il y a un épisode des Experts qui est vendu en standalone, en DVD.
Il a auparavant.
Non, mais c'est pour ça qu'ils l'ont fait en double, hein, c'était prévu, quoi, de toute façon. Quoi, c'est le final de la saison 5. C'est George Eads, donc un des mecs de l'équipe qui se fait
Monsieur Elstève, si vous voulez.
Voilà. Et le méchant, c'est quand même John Saxon. Le méchant, c'est John Saxon. John Saxon dans Enter the Dragon, justement. Et tu vois, je t'offre des enchaînements. T'as vu, Xavier?
Il y a pas Tony Curtis aussi dans le rôle du père?
Oui, Tony Curtis également, aussi, oui. Oui, oui. Tarantino avait déjà posé un pied dans l'univers de la série télé américaine 10 ans avant en réalisant un épisode d'urgence.
Première saison.
Tu l'avais vu du sport, toi, celui-là?
Ouais, certainement. Ouais. Mais je m'en rappelle pas.
C'était moyen bof quand même.
Bah, à l'époque, il était pas connu.
C'était l'époque de Pulp Fiction, désolé.
Mais du coup, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, Xavier. T'avais tous les clichés, les lunettes de soleil, le plan dans le coffre, etc. Dans Urgence, bon, c'est un peu décalé, bon.
Oui.
C'est le plan dans le coffre. T'as des ambulances, c'est facile.
Oui, c'est très bien, c'est très très bien.
Ensuite, on peut parler d'une série qui est très très chère au cœur du sport, qui est Alias. Tarantino réalise des épisodes et il fait des apparitions de rôles récurrents dans la saison 1 de Alias. C'est un rôle et pas un rôle secondaire, hein, un rôle principal quand même qui est vraiment excellent.
On le reconnaît entre deux Lens Flair, encore une fois.
Est-ce qu'on peut parler de sa carrière d'acteur? Qu'est-ce que vous pensez de Tarantino en tant qu'acteur? Là, on vient de parler de.
Il a grossi.
Il a grossi, hein, dans le dernier. Là.
Tarantino, oui, voilà. Tarantino acteur.
Il a repris du dessert qu'on lui a proposé.
Moi, je l'ai franchement trouvé excellent dans Une nuit en enfer.
Ouais.
Après, quand il joue.
Razzie Award à l'époque, hein. Je sais pas si tu le sais.
Comment? Razzie Award de la
du
acteur.
Pire,
ah,
du
c'est
pire
pas impossible.
Second,
ouais.
Ben franchement, sa carrière d'acteur, bon évidemment, il fait du, il joue Tarantino qui joue à l'acteur, et puis il joue pas pour n'importe qui, il joue pour lui ou pour Rodriguez, voilà, il joue, il a joué dans Desperado, bon c'est toujours des rôles qu'il aurait pu s'écrire pour lui.
C'est hein. De qui Desperado déjà?
Ben Rodriguez.
Ah oui Rodriguez, ce réalisateur génial, oui c'est vrai.
Mais oh là, mais... oh là.
Bon voilà. Donc
c'est
on pourra faire une spéciale Rodriguez si tu veux à l'occasion. Il faudra qu'on reparle de la vagueur, les Sharkboy quand même.
Ouais, Spikey.
Hein, c'est long.
Et de des Spikeys et voilà.
Excellent.
Bon, on continue.
Donc on en était justement à la carrière d'acteur de Tarantino.
Et des séries télé aussi. Hein, j'ai fait une petite parenthèse.
Mmh. Voilà. Bon ben voilà. Tarantino acteur. Bon de toute façon le point culminant de sa carrière d'acteur ce sera cette scène de Salma Hayek qui joue avec son boa et qui lui verse une bouteille de tequila sur la...
Tu l'aimes bien ce film, hein.
Je crois que là, il s'est fait plaisir.
Ah bah oui.
Ah oui,
bah,
ah oui.
Salma Hayek, quoi.
Il a eu raison, quoi.
Petite parenthèse, hein, toujours sur la carrière, les malentendus, etc. Moi, j'avais interviewé Robert Kurtzman, donc de chez KNB, et il faut savoir qu'à l'origine, c'est lui qui devait réaliser Une nuit en enfer, et c'est un de ses scripts que Monsieur Tarantino, qui travaillait encore à Video Archive, lui avait proposé de réécrire et qu'il a gardé dans un tiroir. Et comme Monsieur Kurtzman n'a jamais réussi à monter le film, hop hop hop, il est arrivé. Oh tiens, j'ai ce scénario là. Et du coup, pour remercier Robert Kurtzman, il lui a dit bon, tu feras les effets spéciaux quand même. La classe.
D'accord.
La
ok.
Classe.
D'accord.
Voilà. Sympa. Ça, okay. Alors moi, j'ai une interview de Georges Tron à propos de la scène du bois et du.
Oui.
Du...
Pardon. Donc on précise quand même pourquoi tu as fait l'interview, on rappelle Eddy et
non, n'en parle pas parce que je ne sors plus de numéro et les abonnés me courent après donc
On parlera pas donc
c'est pas les huissiers, c'est les abonnés. Ouais.
D'accord, on parlera pas donc que tu es le créateur du fanzine 7ème dimension. Alors forcément on va être obligé de parler de Django hein du coup.
Ouais. On est obligé non?
Allez,
ça
bah ouais. Petite coupure musicale puisque je sais que tu en as une derrière les fagots encore.
Allez, Western.
Oui, pardon, excusez-moi.
Si tu pouvais nous passer du Ennio Morricone, ce serait vraiment génial.
Western.
Et comme ça, on pourrait dire à nos auditeurs, on vous prend pas pour des gens.
Il a dit Western.
Non,
moi aussi, je dis Western.
Non, moi, je suis désolé, publicité. Vous écoutez Radio FMR sur 89.1.
Et vous êtes content de l'écouter.
Putain, la plus droite. We'll be right back.
Alors Ennio Morricone, mais bien évidemment, qui peut me dire de quel film est extrait cette musique sur laquelle on a mis un chien qui galope dans les champs?
Le professionnel.
Pas moi.
Oui, exact.
Avec Belmondo.
Chin Mei.
Allez, on parle de Django. Django. Django
Unchained. Ah oui, c'est vrai qu'on est là pour ça.
Et oui, c'est vrai qu'on est là pour ça.
On est là pour
On avait encore de la matière. On aurait pu parler de pourquoi la patte Tarantino, la Tarantino Connection avec toute la galaxie, les acteurs, fétiches. D'ailleurs, on va en parler.
Donc, ouais, parlons-en. Est-ce que t'as le résumé de YouTube de Django?
Non.
Ouais, non.
Résumé de YouTube?
Ouais.
Alors,
ça tombe bien, je l'ai pas vu.
Ah,
alors,
non, très bien.
La patte Tarantino, pourquoi les films de Tarantino, pourquoi un culte autour de ce réalisateur, pourquoi chaque film qu'il fait, il a le final cut, on lui donne tout.
Parce que le Gaumont, chaque fois qu'il sort un film, c'est 4 salles, elles sont pleines.
Mais oui, mais c'est quand même, ça reste quand même.
Très bonne analyse.
Mais ça reste quand
4
même.
4 femmes sur 13.
Et pourquoi?
Pour ce que lui dit les Weinstein d'ailleurs, hein, parce qu'au Gaumont, il y a 4 salles et voilà.
Pourquoi salle comble?
Robert, si tu nous écoutes.
Pourquoi salle comble à chacun de ces films alors que ce sont quand même, il faut le dire, des films d'auteur, certes, barrés, mais des films d'auteur.
Oui, enfin.
Je suis désolé.
Bon, on parlait en antenne effectivement de Star Wars, effectivement, les 3 premiers Star Wars c'était des films d'auteur, c'est la même chose quoi.
Oui. Oui, parlons de Matrix aussi.
Non mais donc oui, pourquoi ce succès? Parce que quand même ce sont des films extrêmement bavards. Alors certes, il y a la dose d'hémoglobine, certes, il y a les costards cool des braqueurs au début, mais ça fait longtemps qu'il ne fait plus ça et ça fait longtemps que ce sont des films super longs
parce que ça parle à la génération YouTube.
Non, je sais pourquoi c'est des films d'auteur, parce qu'il n'a pas passé le cap de la 3D.
Ah ouais, c'est vrai ça. Et d'ailleurs, je pensais voir Django en 3D. Ah mais oui, c'est vrai, j'avais oublié ça en rentrant dans la salle. Je pensais qu'il fallait mettre des lunettes. Enfin bon, bref. Mais non, moi je pense que c'est parce
que... Verrez la tête dépitée de Thomas pour ceux qui n'ont pas payé la redevance couleur.
J'essaie de faire une émission culturelle parce qu'on a été attaqué récemment en disant qu'on faisait des émissions dans le garage un peu. Ça. Donc on essaie de se surélever.
En fait, Tarantino, on pourrait considérer que c'est un type qui veut faire du cinéma d'auteur et tout, parce que c'est vrai qu'il adore également tout le cinéma d'auteur de la nouvelle vague française, les Truffaut, tout ça, enfin moi c'est des citations qu'il fait,
Melville,
enfin bon, toute
sa boîte de prod, bande à part, qui est,
voilà, et en même temps qui veut plaire à ce qui fait la force financière du cinéma et du cinéma américain surtout, hein, parce que bon, bah, généralement quand là-bas ils calculent pour un film, ils calculent d'abord pour les États-Unis, puis après éventuellement ouais le reste du monde. Parce que bon, bah, ça peut faire ramener un petit peu plus de pépettes. Et justement, il y a peut-être ces 2 degrés ou plusieurs degrés de lecture, quoi, qui permettent à plus de public d'arriver dans ces films et à les apprécier aussi, quoi. C'est-à-dire que bon, ce sont des films qui effectivement sont souvent rediffusés à la télé. C'est vrai que ce sont des films qui sont agréables à regarder une seconde fois, une troisième fois. Donc c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut considérer Tarantino, simplement un type qui est assez futé, assez intelligent pour pouvoir mettre plusieurs degrés de lecture dans ses films et se faire plaisir néanmoins, quoi.
Et ça me fait penser aussi à ce que disait Cameron à une certaine époque. Je sais pas pourquoi je parle de Cameron, mais c'est bien de parler de Cameron.
Mais j'attends ce que tu dis pour voir.
Il disait je fais les films que le public a envie de voir. Et je pense que c'est un peu ça Tarantino aussi. Il fait les films que le public a envie de voir.
Non, Tarantino, il fait des films que lui voudrait voir.
Oui, mais
ses goûts à lui correspondent à beaucoup de gens.
Mais moi je pense aussi que t'as le côté fan film. Tu vois, le côté fan film, c'est pour ça que ça marche si bien Tarantino. T'as tout un lien avec la génération YouTube, qui prennent des morceaux, parce que c'est ça en fait Tarantino, c'est quoi? C'est un DJ quoi. Il dit, oh tiens, je vais mettre telle musique que j'aime bien, j'ai tel passage dans tel film que j'aime bien, je vais refaire ça, etc. Et ça parle aux gens quoi. Tu vois, je veux dire, même dans les métiers qu'on fait, à l'heure du montage virtuel où c'est accessible à tout le monde, du coup Tarantino, ça parle aux gens. Voilà, tu te dis, oh il est comme moi, il aime le cinéma, il aime ce que j'aime, alors il fabrique un petit peu son film.
Sauf que le truc, c'est que bon, c'est là aussi le bon côté de Tarantino, c'est qui remet au goût du jour des franges de cinéma que personne ne connaissait ou que tout le monde avait oublié, comme la Shaw Brothers, comme les films japonais ou les bouquins de pulp ou la Blaxploitation.
Oui, faut quand même être... qui a le moins bien marché si tu regardes.
Oui, mais par exemple pour la Blaxploitation.
C'est un peu plus obscur.
Oui, c'est un peu plus obscur parce que il faut quand même être honnête. Tous les gens qui ont aimé Jackie Brown, et ce sont les moins nombreux dans les fans de Tarantino, faut quand même savoir que la Blaxploitation, personne n'avait rien à foutre avant qu'il y ait Jackie Brown qui sorte, quoi.
Si, il y a eu Shaft en 2000.
Et oui, mais Shaft en 2000, pourquoi il est sorti en 2000? C'est parce qu'il y a eu
Jackie Brown en 1973 aussi.
Ben oui.
Tu vois, ça va être une anecdote. Moi, j'ai été voir ce film accompagné avec une gentedame et j'avais vu le nom d'un des personnages, Von Shaft, dans Django. Et j'ai dit, ah, putain, c'est sympa, c'est un hommage à Shaft. Ouais. Et là, on m'a sorti Ah oui, avec Samuel L. Jackson.
Oui.
Du coup, c'est pour te dire. Mais oui, c'est pour te dire que la Blaxploitation, ça n'existe pas pour le commun des mortels. Mm-hmm. Shaft, c'est Samuel L. Jackson, alors que pour tout le monde, c'est pas du tout Samuel L. Jackson.
C'était le film avec Isaac Hayes. Voilà, c'était.
Je suis content de ma petite référence.
Oui.
C'est bien.
Oui, oui. Donc c'est vrai que bon, Tarantino aussi, en recyclant certaines franges de cinéma, remet au goût du jour. Bon, même si Wen Wu-Ping avait été remis au goût du jour grâce à Tigre et Dragon et Matrix, il a encore repropulsé sur le devant de la scène. Il réactive des carrières. Travolta, il a propulsé Christoph Waltz sur le devant de la scène également. Mais c'est quand même quelqu'un qui fait du recyclage et à un moment donné,
T'as dit Christophe.
Christophe Waltz, oui.
Alors que t'as vu que le nom a changé entre deux films.
Avant, c'est Christopher maintenant.
Et maintenant c'est Christophe.
Ouais, c'est Christophe.
Oui. Bon.
Oui, c'est ce que j'avais remarqué à la
première. Voilà. Donc à un moment donné, ce référencement à l'extrême qui est sa marque de fabrique, à un moment donné, est-ce que ça commence pas un peu à saouler, quoi? Moi, je suis désolé. Quelqu'un qui fait de la référence, premier film, deuxième film, troisième film, ok, quatrième film, ah ouais, mais c'est pas une référence qu'avant, d'accord. À un moment donné, quand tu fais 8 ou 9 films et que c'est toujours les mêmes, parce que bon, c'est, le mec, il continue d'aimer les westerns et il met encore plus de références aux westerns, ça va, quoi. Ça, à un moment donné, c'est bon. Les références, ça suffit, quoi. Je suis désolé. Quand il commence à faire des références cachées à John Woo dans Jackie Brown, dans Pulp Fiction, quand il se mate des extraits de films John Woo avec le syndicat du crime, ok, on a compris, c'est bon.
Oui, c'est pas. C'est vrai que t'as raison. T'as la référence visuelle et en plus il est capable de te mettre le film qui tourne en fond plus l'affiche en fond.
Ouais, oui.
C'est vrai,
à un moment donné, dans Django, on en parlera tout à l'heure, quand il y a des références à un flingue dans chaque main à Chow Yun Fat, c'est bon. On sait que tu l'aimes. À un moment donné, ça suffit, quoi. La référence.
Même le final, sans spoiler, qui est du Scarface, quoi, dans la construction.
Du Scarface, voilà. Et puis en plus, à un moment donné, quand tu es content et fier de découvrir des gimmicks visuels dans la carrière de Tarantino, on parlait tout à l'heure du plan sur le coffre, on parlait aussi du massacre, le cadavre ambulant qui est pas forcément mort, à la Tim Roth, à la française qui a un bras en moins dans Kill Bill. Il y a aussi un cadavre aussi un gars qui souffre dans Django. À un moment donné,
il y en a plusieurs, il y en a beaucoup qui souffrent dans Django. L'utilisation des blessés et des gens qui ont pris un coup, on va dire, dans Django est poussée à l'extrême parce que ils sont tous tant qu'ils sont pas morts, ils sont encore actifs. Encore partie
et puis,
de la scène.
Et puis ça fait partie du comique.
Mais
à un moment donné,
comique ou du dramatique ou à la construction de la scène également dans certains moments, surtout dans la scène finale d'ailleurs.
Voilà, sauf que l'autocitation, à un moment donné, ça suffit, quoi. C'est dans 2-3 films, ok, on a compris qu'il met les mêmes fausses marques d'un film à l'autre, qu'il y a les gimmicks sur les pieds. D'ailleurs, il y en a pas trop des pieds dans Django, mais bon.
Parce que c'est un western, les pieds sont sales.
Voilà. À un moment donné, l'autocitation, c'est quand que ça va saouler les gens. Moi, personnellement, ça commence, quoi. Voilà, moi je dis juste ça, quoi.
Là dans Django il y en a pas trop et c'est vrai que dans Django en plus on remarquera que bon les rôles féminins, on va dire, s'il y en a, hein, parce que vraiment faut le chercher. Bon, il y a quand même c'est quand même la femme qui est l'objet principal du film au départ jusqu'à l'arrivée, on est bien d'accord. Mais la représentation qu'en fait Tarantino en fait dans Django est soit idéalisée, soit fantasmée, on va dire,
très naïf, en fait.
Rêvée, on va dire poussée au plus bas, quoi, à la déchéance la plus extrême, quoi. Vu la situation dans laquelle elle se trouve.
C'est la mise en abîme du conte allemand, hein, à l'intérieur du film. C'est une métaphore du conte. À l'intérieur, c'est un remake du conte allemand, quoi, le film. En fait, c'est pour ça.
Vachement simplifié, quoi.
S'il vous plaît.
Là, on les a perdus. Vous n'avez pas vu, vous avez rien compris.
Surtout, s'il vous plaît, vous lâchez les mains, hein, sur les flingues. Je dis ça parce qu'il est 13h20 et du sport à une interview, donc on va passer de suite à la partie télé. Ah, Green Hornet, extrait de la bande son évidemment de Kill Bill, mais aussi c'est une série des années 70.
Et un film de Michel Gondry.
Et voilà, encore un mec qui fait de l'autocitation et toujours dans les mêmes styles et tout ça. Il y a un marre de ces réalisateurs du sport. Dis-moi ce que tu as trouvé à la télé.
Musique de Nelson Riddle qui, à son époque, avait relancé la carrière de Frank Sinatra à la fin des années 50 quand Sinatra avait commencé à enregistrer pour Columbia.
Vas-y. Vous en serez plus à partir de 14h. La télé.
La télé. Alors ce soir, deux documentaires, pas des westerns mais des documentaires. Le premier sur Billy the Kid de John Maggio, le deuxième sur Wyatt Earp également sur de John Maggio, tous deux récents, 2012, donc inédits. C'est sur Arte ce soir. Sinon, très tard ce soir.
Juste une chose. Avant le film, on a vu une pub pour Arte, absolument hallucinante.
Ouais.
On la voit pas venir.
Ouais, bon, personnellement, ça m'a pas.
Ouais, bon bah ok.
J'étais bourré au début, je me rappelle plus.
D'accord. Ah, bon, qu'au début. Okay. Après.
Qu'au début. Après, il fait 2h47, alors t'as le temps de dessouler. Hein, non mais.
Ce soir également
il
comme.
Des tacos à côté de toi là, c'est ça.
Non mais j'essaie de me placer.
D'ailleurs, toute ma sympathie à la personne qui était devant, je suis allé souvent aux toilettes, donc je suis passé devant elle.
C'est une technique de drague en fait.
Où ça?
Non, je crois que c'était un homme.
On va sortir des westerns.
Ça ne regarde que toi.
Ah oui, bien sûr.
J'essayais de sortir des westerns là parce que
un,
là, on fait
un
trop de
super excellent western ce soir, mais très tard ce soir à 23h30 sur Ciné Plus Classique. L'homme de l'Ouest d'Anthony Mann avec Gary Cooper, Julie London, Lee G. Cobb, Jack Lord, qui n'était pas encore papa. C'était quelques années plus tard. Demain sur France 2, Appaloosa de Ed Harris, avec Ed Harris, Viggo Mortensen, René Zellweger, Jeremy Irons.
Eh ben moi non plus.
2008, c'est assez récent, donc bah c'est l'occasion hein, de le voir ouais. Pour pas cher quoi. On a les mains sur un poste de télé.
J'adore cette émission parce que quand tu viens à l'émission à midi, le soir tu sais ce que tu vas essayer de te rechercher pour voir ta pour combler ta soirée.
Ouais, c'est ça. Par contre, c'est ceux qui nous écoutent en semaine en podcast qui sont déçus.
Ouais, bah, attends parce que lundi ils vont être scotchés devant Sci-Fi certainement. Car à 20h45, ça démarre avec Camel Spiders de Jim Wynorski.
Yeah.
2011, avec Brian Krause quand
le
même.
Le crossover entre des chameaux et des araignées.
Et Chris Thomas Howell. Aha, qui est Chris Thomas Howell?
Alors je pense qu'il est connu aussi par C. Thomas Howell aussi, non?
Ouais, C. Thomas Howell. Ouais,
enfin, non, mais tu dis Chris, c'est la classe de dire Chris, hein, parce que je savais même pas que c'était Chris.
Ah bon?
Je l'ai toujours connu avec le C devant.
C. Thomas Howell, moi ça me dit rien.
Mais bien sûr. Bah,
allons. C'est le petit jeune dans The Hitcher, la version originale.
Et attention. et dans les et il joue dans Outsiders de Francis Ford Coppola.
Ouais. Et c'est lui qui écarte Jennifer Jason Leigh donc.
Ouais. Attends. Ah bon? Dis, ouais. Non. Mais non.
Quoi, dans la version originale, il est obligé de décarteler.
Il écarte? Je m'en rappelle plus.
Ah quand bon. Elle est enchaînée, quand elle est attachée.
Ah oui, c'est oui, vrai. Oui. Non, parce que ça se passe hors champ.
Oui, parce que tu me fais douter quand même de
non,
du
non,
coup.
Non, c'est toi. Tu as raison. D'accord.
Le jeune beau gosse, quoi. Et
il est dans autre... quoi, du coup, c'est Thomas Sowell?
Dans Camel Spiders avec Brian Croze. En fait, c'est une histoire d'araignées qui sont aussi grandes que des chameaux, quoi. Enfin bon, et qui envahissent les États-Unis.
Toujours.
Ah ouais.
On commence par les États-Unis, toujours.
Ouais. À 22h25, 15, ça continue avec, alors celui-là, il est carrément inédit, l'attaque des guêpes dragons de Joe Nye.
Ouais.
Avec
guêpes dragons, quoi.
Un pote qu'on aime bien, Corinne Nemec, dans le rôle principal.
L'homme qui recousait lui-même ses blousons.
Voilà, exactement. Donc respect, énorme respect. C'est donc c'est lundi, ça, donc sur Sci-Fi à 22h15, l'attaque des guêpes dragons. C'est des guêpes qui ont muté avec des dragons.
On a compris,
c'est la classe.
Je pense qu'on avait compris,
c'est la classe. Okay.
Sinon, un bon western, excellent western sur TCM lundi à 22h45, La rivière sans retour de Top Reminger, le duo Mitchum Monroe, peut-être le meilleur film de Monroe. De toute façon, Mitchum, il est bon dans tous ses films, alors il n'y a pas de problème. Mardi, sur Ciné Plus Classique, Nevada Smith, puis Henry Hathaway et tout, La petite vengeance, Steve McQueen et tout. Qui est également à l'affiche demain soir, mais pas pour un western, mais c'est Bullitt qui passe demain soir sur Arte. Et après, il y a un docu sur Steve McQueen que si vous avez jamais vu, regardez-le, ça vaut vraiment le coup parce qu'il est vachement complet. Et en plus, il n'élude pas certaines questions, un petit peu, on va dire, quant à ses mœurs un peu douteuses, quoi. Que je prends du LSD, que je fume des joints, bref. Sinon, on a mardi également à 22h25, L'homme au fusil, ça c'est juste après Nevada Smith, un film de Ralph Wilson en 55 avec Mitchum, encore John Starling et Karen Sharp. Mercredi sur TCM, règlement de compte à Hockey Choral, l'original de Sturgess en 57, avec Brut Lancaster, Kirk Douglas. Non, je t'ai plus, les gars. Ça suffit. OCS Ciné Géant, toujours mercredi prochain. Alamo, le film Remember Alamo de John Wayne, avec John Wayne, Widmark. Alors là, t'as le truc, Widmark qui joue le rôle de, tu sais, le mec qui a le truc derrière, là, comment il s'appelle, Davy Crockett, voilà, c'est ça. Davy Crockett, enfin,
bon, le truc derrière,
c'est le castor, c'est pas Davy
Crockett. Ouais, la peau de castor, là, c'est ça, quoi, ouais. La casquette de castor, le film de 60, donc. Jeudi, c'est TCM. Jeudi sur TCM, c'est pas vraiment un western, mais moi je trouve que c'est un western, c'est délivrant.
Chérie,
de John Boorman.
Avec, tu sais, le mec qui a le truc derrière, on le regarde, c'est quoi? Ça a l'air bien.
Moi j'aurais plus pensé à un film, à un karatéka américain.
Ou sans beaucoup.
Et on termine avec vendredi sur TCM, donc à 0h05, Abraham Lincoln de John Cromwell dans 1940,
ah,
avec
coup,
Raymond Massey.
Je crois qu'il chassait le vampire.
Moi aussi, j'attendais la suite.
Avec Raymond Massey et Roger Gordon. Et enfin, sur Action, vendredi prochain à 21h, Les Prairies de l'Honneur d'Andrew McLaglen avec James Stewart, Doug McClure, un mec de Bonanza, et Glenn Corbett. Voilà, c'est la
super
semaine western à la télé.
Bah,
ou pas trop. Hein.
Ce qui fait qu'on va terminer à peu près à l'heure et sans...
Sans parler de Django.
Ah merde.
Oh mince.
Bon, alors Django.
Alors
venons-en.
Django Unchained.
Qui c'est qui l'a vu?
Allez.
Bah, on est 3 sur 4 là, alors c'est pas mal, quoi.
C'est bien, on a une
d'accord,
bonne
D'accord, on fait okay. une interruption musicale, ah, le oui, temps oui, de se mettre même. D'accord sur Allez. Des trucs et tout ça, parce que du coup, bah oui, c'est vrai, on n'a pas pensé à le faire et on est dans la merde. Ah bah mince alors.
Mais non, c'est fait exprès. C'est la déconstruction narrative tarantinesque.
Voilà.
Et voilà. Et c'est fait en live. Et je vous jure, c'est pas dans le scénario cette fois-ci. Extrait de la bande-son d'un Kill Bill 2, justement, tiens, des constructions narratives à pousser lui aussi à son bout. Chère vie, good night, moon.
What should I do? Just a little bit.
Chiravi, Good Night Moon, et j'ai un gros problème parce que là j'ai trois animateurs qui sont en Mexican standoff qui se regardent.
Caramba.
Avec un stylo dans chaque main.
L'atmosphère ouais. est poussiéreuse.
On est mal rasé.
À la croisée des chemins.
T'as vu, il y a un ballot de paille.
Non, c'est les chardons, ça s'appelle des chardons de Sibérie.
Des chardons de Sibérie, c'est moins classe du.
Attention, grand monologue en perspective. Django Unchained
est un film.
On peut aller pisser. Ouais. Un film de et avec Quentin Tarantino.
De 2h47.
Et aussi, attention, Jamie Foxx, Christoph Waltz, Léo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel Jackson, Don Johnson, James Remar, Zoé Bell, Tom Savini, James Russo, Franco Nero. Dans le sud, bien rétrograde des États-Unis.
Non mais moi j'ai pas vu le film, je peux pas.
2 ans avant la guerre de sécession, le docteur Schultz, également chasseur de primes, libère l'esclave Django afin que celui-ci l'aide à retrouver un gang de criminels. Mais leur collaboration se passe si bien qu'ils décident de faire un bout de chemin ensemble jusqu'à la propriété du redoutable Calvin Candy, adepte de combats meurtriers entre esclaves et propriétaire de Brumilda von Schaft, l'épouse de Django.
C'est bien. Non, c'est bien. T'as bien résumé.
Bien résumé.
Ouais, sans spoiler.
Et Brumilda von Schaft, okay. sans bafouiller. Qui est officiellement, d'après Tarantino, l'ancêtre de Schaft, hein, officiellement.
Ah, officiellement.
C'était pas seulement un hommage, c'est son ancêtre.
Donc ça veut dire qu'elle est sortie donc avec le vieux noir, le vieux nègre.
Ben non.
Bah si, c'est Samuel L. Jackson qui fait le rôle.
Oui, d'accord.
Et est-ce que tu crois qu'elle est allée en Italie pour faire lien avec la séquence dans True Romance? Ah, est-ce que tu vois ce que je veux dire?
La séquence dans True Romance.
Avec Denis Hopper
et
Christopher Walken.
Oui, parce que tes ancêtres. Voilà. Ok, d'accord.
Tout est lié.
Alors, dans la série filmographie cachée, il y a aussi l'ancêtre de l'officier Koons de Pulp Fiction qui se fait buter par Django dans Django Unchained. L'un des malfrats qui bute pour la prime, il s'appelle Koons.
Le shérif.
C'est le shérif
Koons. Je te crois.
Ouais. Officiellement, voilà. Alors,
bref.
Django Unchained, donc. Premier full frontal, on a dit tout à l'heure, de Tarantino avec le genre western. Même si, évidemment, il le remet à sa sauce et il se sert du western. Mais c'est quand même un vrai western avec des chapeaux, des cow-boys, des pistolets, des chevaux.
Les paysages.
Voilà, le saloon. Voilà.
Ça sent le western, et ça pue le western.
On peut diviser le film en deux parties. Le premier film, voyage hivernal à travers le sud, avec le quotidien des chasseurs de primes, dans le genre western dans sa pure tradition. Puis évidemment la partie plus tarantinesque, on va dire, moi je dirais plus chiante d'ailleurs, ce qu'on s'était dit en sortant du cinéma, Candyland. Là c'est plus voilà l'esclavage, Leonardo DiCaprio en roue libre,
qui est pas mal d'ailleurs, hein, il est en roue libre mais
je crois qu'il est content de massacrer sa propre image dans ce film.
Oui,
je pense qu'il il est excellent, faut dire quand même qu'il
non,
est excellent.
Il joue
trop
bien,
long, pas ouais, coupé mais excellent.
Et ben, c'est le problème.
Et maintenant il commence à grossir et tout, et je crois que là il est fier d'avoir une gueule un peu âgée.
Exactement, voilà.
Et d'être imbuvable.
Je crois que déjà on avait vu ce visage là dans Shutter Island déjà, ouais, qui commençait à avoir un côté un peu plus, une désaspérité dans le visage qui servait bien ses rôles. Les infiltrés,
il était quand même très bien dans Les Infiltrés.
Oui, tout à fait, c'est pas faux. Alors cette deuxième partie que j'ai moins aimée, mais quand même c'est la partie où il y a Samuel Jackson qui est absolument impayable, avec des très très grands numéros de comique. Première rencontre.
Oui, c'est ça. Hein.
Comment?
Oncle Benz.
Oui.
C'est ce que tu te dis.
Mais non, physiquement, on le reconnaît pas.
Là, il reproduit vraiment un archétype d'un des personnages américains dans les comédies américaines des années 40, 30, 40, 50. C'est-à-dire le maître de maison en black chez le sudiste et tout. C'est vraiment l'archétype et il le joue vraiment très très bien, hein, c'est-à-dire avec sa voix très mielleuse, avec son
cette voix chantante, hein.
Alors juste une chose, si vous saisissez mal l'anglais, si vous saisissez mal l'anglais, il y a tout l'argot de l'époque, il l'utilise à fond et au bout d'un moment il y a une coupure, on vous dit pas quand, mais là il commence à dire those motherfucker, et là tout d'un coup on a le l'argot de rue actuel.
Bah, le Samuel Jackson actuel.
Voilà. Et là, c'est c'est le masque
ouais,
tombe.
Mais c'est le, c'est le petit clin d'œil hein, de toute façon.
Mais
quoi,
de toute façon,
pareil,
si tu vois, si tu suis le compte Twitter de Jackson, il parle comme ça en général. Il hein. Y avait que des abréviations
et
dans les.
Bien bah, entendu, c'est un film à voir en VO.
Oui, ah bah, là, bah, de Samuel, façon,
je tiens à signaler que Samuel L. Jackson, il, quand il raconte des histoires pour ses gosses, c'est « You gonna sleep, motherfucker ».
Donc d'ailleurs, Xavier qui peut en témoigner puisqu'il était... Bon, bref. L'esclavage, le thème central de l'un des thèmes centraux du film, donc qui fait quand même assez froid dans le dos. Tarantino, sur ce côté-là, réussit son pari puisque c'est quand même une comédie à la Tarantino puisqu'il fait que des comédies, mais l'esclavage, non seulement ils en blaguent, ils font des blagues là-dessus à un moment donné, donc tu te dis bon, ouais, c'est rigolo, tu rigoles aussi là-dessus. À un moment donné, quand t'as le duel des mandingues à la fin, ou même des quand tu vois le sort réservé aux esclaves qui sont traités comme des objets, à un moment donné tu rigoles, mais tu t'arrêtes de rire quoi, à un moment donné. Ce décalage et ce va-et-vient, ce ping-pong constamment qu'il fait dans le film fonctionne très 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 bien.
Moi je pense qu'il arrive à une certaine forme de maturité.
Là-dessus, oui.
Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il se laisse porter par le sujet. Il n'est pas là à essayer de le maîtriser.
Il a un message à dire dans ce film.
Bon, après, c'est un message qui est super convenu, hein. L'esclavage, c'est pas bien. Bon, ça, voilà, tout le monde est capable de le faire.
Oui, mais bon, il apporte des nuances qui sont vraiment très, très intéressantes à ce sujet, hein. C'est-à-dire que la façon dont il filme, d'ailleurs, certaines scènes, on est plus en empathie avec les racistes qu'avec les blacks, quoi. Et dans d'autres scènes, eh bien, c'est le contraire, hein. C'est également la manière dont il peut filmer qui peut nous inciter à aller dans une voie ou dans l'autre, quoi.
Et c'est vrai que je vais rebondir sur ce que tu dis. C'est vrai que pour une fois, on est embarqué dans le truc émotionnellement. Alors qu'à d'habitude, on a de la distance un peu avec...
Tout à fait, parce que bon, justement, le charisme des personnages principaux, je veux dire, Don Johnson dans la première partie et DiCaprio dans la deuxième, font que, ben bon, on se prend quand même de sympathie pour ces ordures,
ouais, des
enfoirés.
Je sais pas si ce sont des anti-héros magnifiques aussi.
Oui, oui, non, mais c'est ça. Mais justement, le seul fait que tu dises magnifique veut dire que bon bah tu as de l'empathie pour ce personnage, bien que ce soit un maître négrier, que qu'il donne des ordres pour que ses esclaves soient cramés au soleil, travaillés, torturés, bouffés par les chiens. Ouais. Enfin bon, la totale, quoi. Voilà, quoi. C'est ça, quoi. C'est là aussi que c'est très intéressant. Hein, c'est l'histoire de se mettre à la place et se remettre dans le contexte de l'époque, quoi. Ce qui n'est pas tout à fait évident, quoi. Parce que bon, bah, actuellement, on est de nouveau dans une espèce de trouble du langage avec l'utilisation du mot nigger, qui est une expression qui était tout à fait courante, quoi, mais qui n'était pratiquement même pas dévalorisante, et c'est vrai que ça a été remis au goût du jour par les rappeurs à un certain moment, et il y a eu une mini polémique quant à l'utilisation de ce mot nigger qui est très fréquent dans le film. Enfin, bon,
il est systématiquement attaqué par Spike Lee dans tous ses films. Tarantino, nigger, il est tout le temps. Hein.
Oui, mais de toute façon, parce que bon, c'est une expression consacrée, ça fait partie du langage courant, du langage familier. Et point à ligne, c'est tout, quoi. On peut également se référer à certaines parutions françaises du début du siècle dernier, voire jusque dans les années 20-30, des parutions dans les journaux où le mot nègre était utilisé assez fréquemment et sans que ce soit vraiment dévalorisant, on va dire, pour les contextes de l'époque, par rapport aux personnes noires, quoi.
Mais même tu regardes en littérature, c'est resté, quoi. Quand on dit que quelqu'un fait appel à un nègre pour un bouquin, je veux dire, c'est complètement raciste, mais c'est rentré dans le langage, quoi.
Ah, de toute façon, c'est dans le dictionnaire. Hein.
Donc, on a commencé à en parler. Il y a quelques scènes qui sont, selon moi, extrêmement réussies dans le film. Donc, on peut les citer. On a toute la partie, l'arrivée dans le saloon avec le meurtre du shérif au début, qui est somptueuse de décalage, parce qu'au moins la scène est un peu bavarde, mais pas trop.
Oui.
Rythmé, parce que là c'est le comique, mais pur jus, avec la femme qui s'évanouit, etc. Là, Christoph Waltz, c'est vraiment excellentissime.
On a très, très bon acteur.
Partie avec Don Johnson, et puis cette scène inénarrable avec les sacs pour les racistes.
C'est du Monty Python.
Oui.
Mais tu retrouves cette patte de Tarantino à te parler d'un détail, d'un fait à développer et à faire un comique
et
de situation.
Il ridiculise le plus dans une scène.
C'est fou parce que là, il aurait pu citer là les frères Cohen, mais en fait, c'est Monty Python directement. J'ai été sur le cul.
C'est pertinent ce que tu dis parce que ça me
Mel Brooks aussi, quoi.
Ça me rappelait les Monty Python, mais j'étais incapable de mettre un nom dessus. Mais c'est tout à fait ça, ce comique-là, ouais.
C'est surtout la partie des Monty Python, l'humour justement des blagues qui tombent dans n'importe quoi, tu sais la fin de Sacré Graal où oui, ça tombe dans n'importe quoi ou ça ne peut que se terminer dans n'importe quoi. Mmh. Et là, ça se termine dans n'importe quoi.
Ensuite, on va parler des défauts du film. Hein, donc,
bon, déjà, on pourrait dire à nos auditeurs, est-ce qu'on a aimé ? Parce que finalement, on part, on n'a pas vraiment donné notre point de vue encore.
C'est-à-dire, alors, oui, attention, non. Il me faut le jingle Nouvelle Star.
Oui, on en avait commencé à en parler en off, en sortant de la projection avec du sport. Je l'ai préféré à Inglourious Basterds. Personnellement, je préfère sa phase jusqu'à Boulevard de la Mort. Je trouve qu'aujourd'hui il essaie de faire du grand cinéma qui a tendance personnellement à me faire chier. Par contre, il y a des fulgurances dans ce film là où j'ai été épaté. Voilà. Mais c'est pas son meilleur film, loin de là, et j'aimerais bien qu'il revienne à des films un peu moins, on va dire, ambitieux avec un grand A, où qu'il essaye de faire moins des films de série A pour les Oscars, quoi.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Ben, moi je vais dire que ça m'a réconcilié un peu avec lui pareil, hein. Inglourious Basterds, pour moi c'était des bonnes idées, mais ça fait pas un film. Enfin voilà, bon, pour moi c'était ça, après ça n'engage que moi. Et c'est vrai que celui-là, j'ai été agréablement surpris, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des moments où Tarantino lâche la bride et il raconte vraiment une histoire par moment, et ça m'a bien plu. Mais après, voilà, moi le gros problème que j'ai avec lui, c'est un très bon film, mais par contre, moi je trouve qu'il faut couper. Voilà, c'est tout. À un moment donné, il faut savoir couper.
Moi je pense que pour une fois, Tarantino a voulu faire un moteur qui était autre chose que la vengeance et l'amour. Puisque il y a ce revirement à cause de cette scène, cette scène assez et donc un personnage qui bascule pour autre chose comme motif que la vengeance personnelle et l'amour. Et là, de ce côté-là, il m'a vraiment surpris. Mmh. En plus d'avoir su mettre en scène, on retrouve vraiment de la patte, effectivement, pas Ennio Morricone, Sergio Leone, de ce côté-là. Mais d'un autre côté, il s'en est totalement sorti parce que voilà, il en fait un western où il n'y a pas que des terrains désertiques loin de là. Mais d'un autre côté, à mon avis, c'est que il a vraiment voulu prendre la phase B du romantisme finalement totalement malsain d'Autant en emporte le vent, et il a retourné le disque et il a foutu dessus de la nitroglycérine et il a posé l'aiguille et il a voulu attendre voir ce qui allait se passer. Et de ce côté-là, c'est ça.
Est-ce que tu l'avais réfléchi, ce truc, avec Autant en
emportant le vent? Je l'ai tweeté hier à 23h35.
Il avait écrit avec de la dynamite à la nitroglycérine.
Moi, je trouve ça bien. C'est bien. Oui. C'était Autant en emporte le vent, il fallait le faire.
Autant en emporte le vent et Monty Python. À mon sens, c'est deux citations sur lesquelles on ne l'attendait pas.
C'est vrai que...
Les oiseaux se cachent pour mourir.
Ah.
Bon, ça, c'est encore autre
après,
chose.
Après, c'est vrai que...
Le pub.
Après, c'est vrai.
To remember when life was a tender... And happy.
C'est vrai.
89.1 MHz.
Ouais, je suis désolé, on est dans les citations cinématographiques. Oui. Là, vous nous attendiez pas, on y est.
Non, mais c'est vrai ce que tu dis sur le nommais pas, mais le personnage de Christoph Waltz, qui est le personnage le plus touchant qu'il ait fait depuis quelques films déjà. Hein. Un personnage aussi touchant, selon moi, il avait pas fait depuis Kill Bill. Malgré son aspect vaste blague, la mariée était quand même assez touchante de ce côté-là. Et là, Christoph Waltz, il a vraiment un rôle dramatique.
Acteur exceptionnel.
Ah oui, oui.
Acteur exceptionnel.
Sa polyglottie aide beaucoup.
Même s'il y a quand même un côté agaçant, parce qu'on voit que c'est un peu de la démonstration de numéro d'acteur, je parle plusieurs langues, il y a un côté un peu qui te perd, qui te fait avoir un second degré par rapport à l'histoire. Ou ça vire un peu à la démonstration.
Mais justement quoi, je trouve que Christoph Waltz, même en étant vachement bavard dans le film, reste quand même vachement juste et vachement plus rythmé que DiCaprio, qui dans la deuxième partie, on va dire, des fois se laisse aller vraiment de trop.
Ah,
quoi.
Ah oui, la scène avec le squelette, avec le crâne, elle est interminable. Pour ceux qui ont vu le film, on le dira pas l'étonnant les aboutissements de cette scène, mais elle est interminable.
Oui, ça ne se finit jamais.
Alors après, par contre, le film, il arrive pas. Enfin, il a mis du temps à se finir dans l'histoire et pas la fabrication du film.
Ouais.
À un moment donné, j'ai décroché. Je me suis dit, il y a à un moment donné un retournement de situation où le personnage principal se retrouve dans une fâcheuse posture alors que tu pensais que le film allait finir sur autre chose. Mm-hmm. Et à un moment donné, j'ai décroché. Je me suis dit, ah, c'est bon, tu peux le finir comme tu veux ton film. J'en ai plus rien à foutre avec que ça finisse.
Ouais, qu'on aille au bout, quoi. Comme un mauvais concert.
Voilà.
mauvais concert.
On dira pas ce que c'est, mais dans la scène de la grange, quand il se retrouve finalement au point de départ,
ça ne sert à rien. Quel est l'intérêt?
Une lassitude, quoi. Tu te dis, ouais, c'est bon.
Et pareil, sans citer, t'as ce passage, bien entendu, où on revient en arrière. Et on repart du coup de nouveau dans la maison. Ça ne sert à rien. À rien. Ça n'amène rien.
Surtout que ça aurait mérité une conclusion plus épique et plus plus règlement de compte ultime et que ça et ce qui n'est pas. Quelque chose qui n'est pas.
Et il y en a un d'ailleurs, hein, et ça devait être un point culminant, et ça retombe après.
Ouais. C'est vrai que la fin est plutôt ratée, mais le film quand même comporte des fulgurances qui valent le détour.
Voilà. Un film malade
De
malade ou malade? Un film malade de malade.
Un film malade, ça a quand même un côté que tu l'aimes pour des mauvaises raisons qui sont difficilement avouables, et ça, c'est pas le cas. Donc on pourrait pas dire que c'est un film malade. On va dire que c'est la moitié du film nous réconcilie avec le réalisateur. Or peut-être que bon, ça sent vachement la trilogie quand même, la trilogie western. Hein, ça c'est, on va gros comme une maison, c'est le deuxième épisode d'une certaine trilogie. Mais ce serait bien qu'à la fin de cette trilogie, qu'ils prennent un peu de recul et qu'ils reviennent à une autre forme de cinéma après quoi.
Ouais, et moi j'aimerais bien qu'ils collaborent avec des gens. Si tu vois ce que je veux dire. Qui se mettent à écrire pour d'autres personnes, des réalisateurs un peu plus posés qui ont besoin d'un peu de folie.
Plus posés que Rodriguez.
Voilà. Et... Voilà, mais voilà, tu vois, regarde un truc improbable, il y en a peut-être qui vont crier. Un scénario Tarantino adapté par Nolan. Tu vois, mais amener un peu de.
Ah ouais, là.
Amener un peu. Et l'inverse.
J'arrive pas à voir la filiation entre les deux. Comment ils pourraient collaborer les deux? Oui, mais par exemple,
Oui, tu vois, qu'ils reviennent, parce que finalement, on regarde des films comme True Romance.
Oui.
C'est quand même sympa, hein. Je veux dire, et ça définit ce que va être le cinéma de Tony Scott après. Ouais. Parce qu'il faut pas oublier que Tony Scott, bon, il y a Top Gun qui sort en 3D, hein, je le place, hein, petite pub, hein, bon, ça sert à rien, mais bon, bref.
C'est toujours bien de parler de
mais
Top Gun.
Tu regardes, t'as Jour de Tonnerre, t'as Top Gun, etc. C'était quand même superposé, hein. Il fait True Romance. Après, il se dit, ah ouais, c'est génial, on peut mettre des personnages complètement tarés, etc. Et à mon avis, s'il n'y a pas True Romance, il n'y a pas Domino. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et Man on Fire, et etc. Ça, paix à ton âme.
Tony. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur Django Unchained. On va rappeler le casting et la référence. Donc, film de et avec Quentin Tarantino, avec Jamie Foxx, Christoph Waltz, Léo DiCaprio et ainsi de suite Samuel Jackson, Don Johnson, Mokone Moron. C'est superbe. Django Unchained qui est sorti la semaine dernière. On vous a proposé une spéciale qu'on aurait pu faire pendant 4 heures, hein, sur les gimmicks de Tarantino, les fausses marques, les généalogies multiples.
On n'a pas suivi tout ton conducteur, hein, non? On n'a pas.
À peu près,
on n'a pas tout suivi. On a juste en plus aussi, on a juste balancé des références en disant on va mettre les liens, on va donner d'autres liens à mon avis qu'on va trouver. Donc n'hésitez pas à aller sur la page de l'émission, le site de l'émission suppléantweekend.fr. Et donc de là, donc sur la page de l'émission, vous pouvez aussi la retrouver sur Facebook, sur Google+, et sur Twitter. On donnera donc justement ces références là. N'hésitez pas aussi à donner votre vision si vous avez vu le film, si vous êtes d'accord avec justement ce que l'on a ressenti.
En tout cas, on espère vous avoir donné envie de vous retaper les Tarantino, de vous recoltiner des filmographies annexes telles que celle de Rodriguez, celle de Roger Avary, puisque le bonhomme continue de tourner des films. Qu'on vous a donné. Alors, sinon, une série de bouquins que j'avais chroniqué dans cette émission, c'est la série de bouquins anonyme de l'éditeur Sonatine, qui est le livre de la mort, le livre sans nom, l'œil de la lune. Donc, c'est une série de bouquins fait par un auteur inconnu anglais qui reprend les thématiques Rodriguez et Tarantino pour en faire des bouquins de vampires. J'ai failli amener un des bouquins pour te le prêter. Dit, tu me feras penser la prochaine fois.
Ouais, je veux bien. Ouais.
C'est excellent. Même plaisir jouissif que dans les filmographies des deux bonhommes. Nous on va vous laisser, on va aller se taper un petit dîner, des petits tacos et des faritas là.
Yes.
Et on va se faire braquer par deux junkies qui sont en manque d'argent et ça va être juste pénible et chiant fois de plus.
Et moi je veux être Monsieur Pink. Et pourquoi t'es Monsieur Pink? Parce que t'es une pédale. Voilà. Il fallait
les dialogues qui sont
trop. Voilà. Et je viens d'éjecter un CD en me souvenant que non, j'ai pas le CD de Pulp Fiction sous la main. Merde.
Personnellement, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en direct du Conseil Général de la Charente pour le Festival d'Angoulême. Je serai en duo avec Kinou de Radio FMR. On essaiera de vous concocter une bonne émission autour de l'année bande dessinée en collaboration avec la rédaction du site actuabd.com. Nous interviewerons les membres du jury du Conseil Général des Jeunes de Charente pour décerner le prix ActuABD. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, midi 13h30 sur 89.1 MHz.
Et merci à Ennio Morricone pour toute la bande son.
Merci à Eddie Gomis qui est venu nous voir.
Merci à vous, comme d'habitude, c'est un plaisir.
Et merci à Dusport qui a 2 minutes 37 pour changer. Voilà, vous écoutez FMR 89.1 MHz, donc rendez-vous la semaine prochaine. Vous pouvez nous suivre sur donc les 89.1 MHz à Toulouse, aussi sur Réseau Radio Doc. Et normalement en stream, mais en ce moment le stream est en travaux. Voilà, ciao, bye bye.
N'hésitez pas à aller nous répondre sur Twitter ou sur notre page Facebook ou Google Plus.
Voilà, on n'a pas le droit de dire que c'est nos trucs. On a le droit de citer, mais on n'a pas le droit de dire faire la promo pour nos comptes.
Ah non, c'est le compte supplément week-end. Voilà.
Connard.
Finir là-dessus en plus.
Ah ouais, c'est long. Ça,
désolé.
Allez, fouette cochée, un petit peu de musique pour aller jusqu'à 14h.